السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله عز وجل en cette soirée du samedi 14 d'Ul Hijjah 1434 de l'Hijjah, correspondant au 19 octobre 2013, bi'idhnillah subhanahu azza wa jal. Nous sommes, incha'Allah azza wa jal, dans le sixième cours du livre Le dogme du monothéisme de Cheikh Fawzan Hafidahullah. Remarquez avec moi que normalement aujourd'hui, samedi, il y a Riyad Salihin. Mais j'ai bien réfléchi, j'ai dit que, puisque beaucoup de gens, là, beaucoup d'élèves, ne connaissent pas bien la Aqida, et beaucoup de sont aussi nouveaux, donc je me suis dit que je préfère battre la Aqida d'abord, donc, terminer ce livre, et ensuite revenir à ce qu'on faisait, c'est-à-dire une fois Aqida, une fois Riyad Salihin. Donc, Inch'Allah Ta'ala, chaque fois maintenant, chaque samedi, chaque mercredi, ce sera le dogme du monothéisme jusqu'à le terminer, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, le titre c'est, voilà le titre, Inch'Allah Ta'ala, présentation de la méthodologie, du Coran pour confirmer l'existence du Créateur et son unicité. C'est-à-dire, on va voir c'est quoi la méthodologie. La méthodologie que le Coran suit, ou disons que le Coran, que Allah subhanahu wa ta'ala possède dans le Coran, pour confirmer son existence et son unicité, bi'idhna azza wa jal. Cheikh Fawzan hafidhahullah dit, et moi, je dis bien sûr ce qu'il y a en français. La méthodologie du Coran pour confirmer l'existence du Créateur et son unicité avec les bons sens et les esprits saints. Sa concrétisation se fait par l'établissement des preuves authentiques qui sont acceptées par la raison et devant lesquelles l'adversaire s'incline. Donc, parmi la méthodologie que Allah subhanahu wa ta'ala emploie dans le Coran, c'est quoi? Établissement des preuves authentiques, basé sur la raison aussi, pour que ça ne touche pas, ça ne concerne pas seulement le croyant, mais ça concerne aussi l'athée. Car quand c'est quelque chose qui se base sur la raison, on ne peut pas le refuter. Si un athée, tu lui cites un verset, tu lui dis Allah Ta'ala dit dans le Coran, ou le prophète a dit quelque chose, il te dit moi si je croyais en ça, donc. Donc c'est un dialogue de sourds. Il faut lui parler avec la raison. Avec raison et la logique. Naam. Tayyib. Parmi ces preuves. Donc on va citer ici trois preuves. Bi'idhnillah azza wa jal, qui se basent sur la raison. D'abord, la première preuve. Bi'idhnillah ta'ala. Avant cela, j'ai oublié juste de résumer, car à chaque fois c'est bien de résumer comme ça, surtout quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le cours, que pour être un croyant, il faudrait faire le tawhid, l'unicité, dans, disons, trois choses. L'unicité de la seigneurie Rububiya et l'unicité de la divinité, l'ilahiyya ou l'uluhiyya ou l'ibada, et l'unicité des noms et des attributs. On avait dit la fois passée que celui qui faisait l'unicité de la seigneurie seulement, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui gère, c'est lui, qu'il n'est pas devenu musulman. Jusqu'à ce qu'il fasse aussi l'unicité de l'ibada, c'est-à-dire la divinité. Il l'adore aussi, c'est pas seulement il dit que c'est là qui fait tomber la pluie, mais il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut aussi faire l'unicité de quoi? Il faut aussi faire l'unicité des noms et des attributs pour devenir croyant. Pour devenir croyant. Et on avait dit, si vous vous rappelez aussi, que l'unicité de la seigneurie, c'est on unifie Allah subhanahu wa ta'ala de par ses actes, lui ce qu'il fait. Il crée, il donne la vie, il donne la mort, il fait tomber la pluie, il donne le risque. Donc, c'est l'unicité de par les actes d'Allah, pas nos actes, à lui, ses actes à lui. Ça, c'est la seigneurie. Quant à l'unicité de la divinité, unifier Allah Azzawajal de par nos actes. Nous qui prions, c'est nous qui faisons la zakat, c'est nous qui faisons des doigts, c'est nous qui se prosternons à lui. Non. Bon, ça, c'est la différence entre l'unicité de la seigneurie et de la divinité. Et on peut dire aussi que, pour différencier les trois, va dire l'unicité de la seigneurie, c'est pour montrer quoi? Montrer les actes de l'Allah Azzawajal et yani, qui sont basés sur la hikma. Quant à l'unicité de la divinité, c'est mon droit de l'Allah Azzawajal. Quels sont les droits qu'il a sur nous? On doit le prier, on doit lui faire des doigts, on doit reconnaître que c'est lui qui donne le risque, on doit. Non, donc c'est ses droits. Quant à l'unicité des noms et des attributs, pour montrer quoi? C'est pour montrer sa beauté. Jamalihi wa jalalihi. Non, c'est pour la montrer la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala et son immensité et sa. Jalalihi, comme on dit en arabe. Donc, Tawhid al-Rububiyya, pour montrer ses actes. Tawhid al-Uluhiyya, l'Ilahiyya, pour montrer ses droits. Et Tawhid al-Asma al-Sifat, et non les attributs, l'Ibayani Jamalihi, pour montrer sa beauté. Non. Et sa supériorité, sa suprématie, et ça, et ça. Donc, on revient, on dit que maintenant, yani, on va voir comment Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a donné des preuves irréfutables basées sur la raison. Non. La première preuve, c'est basé sur quoi? Il a dit ici que il va démontrer, Allah subhanahu wa ta'ala va démontrer que tout fait nécessite une cause. Il est impossible qu'une chose se fasse, ou bien existe, ou bien ait lieu sans qu'il y ait une cause. C'est-à-dire qui a fait que cette chose ait eu lieu? Qui a fait cette chose? Qui a fait que cette chose ait existé? Nam. Qui a fait de sorte que cette chose ait bougé? Et si. Nam. Tout fait nécessite obligatoirement une cause. Une chose qui vient d'elle-même. Cheikh Hafidhallah dit, cette réalité essentielle est notoirement connue par la prédisposition naturelle, c'est-à-dire cette chose, que tout fait nécessite une cause, même chez les enfants, ça existe. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut réfuter ça. En effet, si quelqu'un frappe un enfant alors qu'il est distrait et ne le voit pas, l'enfant dira, qui m'a frappé? Si on lui répond, personne, personne t'a frappé. La frappe est venue d'elle-même. Non, la raison de l'on n'acceptera pas qu'il n'y ait pas d'auteur à ce coup. Vous avez compris? Un enfant de 3 ans, 4 ans, il n'accepte pas. Tu lui dis, le coup est venu de lui-même. Tu dis non. Non, il n'accepte pas. Cependant, si on lui dit, un tel t'a frappé, jusqu'à l'on corrige celui qui l'a frappé. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, dans ce verset une seconde, il a dit dans le Coran, il a dit, Am khuliqu min ghayri shay'in, am humul khaliqun. Al-Tur 35. Al-Tur 35. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'on a dit, ont-ils été créés à partir de ou s'ils eux les créateurs ont été créés à partir de rien? Naam. Comment? C'est venu tout seul? Non, Allah Ta'ala veut montrer que tout fait a besoin d'une cause. Naam. Il a dit Allah Azzawajal, comment? Yani, ils sont venus tout seuls. Tout seul, comme l'enfant qui a été frappé, il n'y a personne qui l'a frappé. C'est pas possible. Tout fait a besoin d'une cause. Le cheikh Hafidhullah dit, ce verbe est une vision restrictive qu'Allah Azzawajal a citée sous la forme d'une interrogation réprobative. C'est une question qu'Allah Ta'ala dit. Ont-ils été créés à partir de rien? C'est une question. Mais est-ce que c'est une question interrogative? Est-ce que Allah Ta'ala veut qu'on lui donne la réponse car il ne sait pas la réponse? Non. C'est une interrogation réprobative. Allah Azzawajal leur fait le reproche. Le reproche. Naam. Comment? Vous croyez que vous soyez créés sans rien? Hein, il leur fait le reproche afin de montrer que ces données sont entières, notoires, sans possibilité de les rejeter. Parce que, quand Allah Ta'ala a dit, ont-ils été créés à partir de rien? C'est-à-dire, sans créateur, ils ont été créés. Sans créateur. Comme ça, d'un coup, les gens sont venus. Et ils sont venus, les étoiles et les montagnes, et tout ça, c'est venu de lui-même. Donc, ou bien c'est comme ça, Naam, ou bien ce sont eux qui se sont créés. Donc, tu es obligé de dire l'une de deux choses. Ou bien tu es venu tout seul, ou bien c'est toi, Yannick, tu n'es pas venu tout seul, mais tu t'es créé. Or, ces deux positions sont fausses. Ni les choses sont venues d'elles-mêmes, ni les choses se sont créées elles-mêmes. C'est donc avéré que ces choses-là ont été créé par un créateur qui est Allah Azzawajal et personne d'autre que lui. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, il a dit Hadha khalqu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a montré que, naam, ou bien donc les créatures se sont créées, yani sont venues d'elles-mêmes, ou bien ce sont elles qui se sont créées, il a dit tout ça c'est faux, naam. Ensuite, il veut leur montrer que donc c'est ni eux sont venus tout seuls, ni se sont créés. Donc il ne reste qu'une chose que ils ont été créés. Ils ont été créés. Et qui donc les a créés? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset. Il a dit, voilà, il a dit, Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. At-Tur 35. Tour 35, c'est-à-dire, il aura dit voilà la création d'Allah. Montrez-moi donc ce qu'ont créé ceux qui sont en dehors de lui. Naam. Voilà, ça c'est un défi. Allah te dit voilà ma création. Montre-moi toi ce que tu as créé, ou bien ce yani, qu'a créé ce que tu adores en dehors de moi. Montre-moi. Tu ne peux pas lui montrer. Non, c'est pas possible. Il a dit dans un autre verset. Il a dit, Aruni mada khalaqu min al-ard. Regardez ce verset. Il a dit, Aruni mada khalaqu min al-ard. Al-Ahqaf 4. Il a dit, montrez-moi donc ce qu'ils ont créé de la terre. Bon, c'est pas la peine de parler des cieux. On est sur terre. Vous êtes sur terre. Montrez-moi donc une chose qu'ont créé ceux que vous adorez en dehors de moi. Montrez-moi une chose. Non. Ils ont créé quoi? Un arbre? Montrez-moi. Montrez-moi si vous pouvez. Et il a dit dans un autre verset, il a dit, Naam, regardez ce verset, toujours des défis. C'est-à-dire en français, il leur a dit, ou bien dont-il Allah Azzawajal des associés qui créent comme sa création, au point que les deux créations se soient confondues à eux, dit Allah est le créateur de toutes choses. Et c'est lui l'unique, le dominateur suprême. Donc ce sont toujours des défis. Des défis que Allah subhanahu wa ta'ala donne. Donc regardez ce défi, ce qu'il a dit ici. Il a dit, ou bien donne-t-il à Allah azawajal des associés qui est comme sa création. Donc, est-ce que vous prétendez qu'il y a d'autres qui créent comme je crée? Allah ta'ala dit, il y a d'autres qui créent comme je crée, au point que les deux créations se confondent au point que les gens ne sachent plus est-ce que, par exemple, cette chose a été créée par Allah ou bien par la statue qu'on adore, par notre Dieu à nous. C'est pour ça que je vous ai dit la fois passée que tout ce que crée Allah Azzawajal, aucune personne, yani, ne peut quoi, ne peut le fabriquer. Et que tout ce que fabriquent les personnes, Allah Azzawajal ne le crée pas. Pourquoi? Il veut sciemment, naam, que ça soit d'une façon explicite, que les choses soient distinctes. Ça vient d'Allah Azzawajal, c'est sa création, et ça et l'autre chose vient, yani, des humains. Naam, ce sont eux qui ont fabriqué ça, ou bien des animaux, ou bien. C'est pour ça qu'il a dit, ou bien, ou dont-il Allah Azzawajal des associés qui créent comme sa création, il a dit, au point que les deux créations se soient confondues. Au point où les gens ne savent plus est-ce que ça vient de là ou ça ne vient pas. Donc Allah Azzawajal veut que ça soit explicite et clair, que cette chose s'est créée par Allah, et cette chose s'est fabriquée par les êtres humains. Naam. Ensuite, il a dit aussi, Inna alladhina tad'una min dunillah, dans ce verset, une seconde, c'est Inna alladhina tad'una min dunillah, lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u lah. Naam, regardez ce verset. Ya ayyuha an-nas duriba mathalun fastami'u lah. Inna alladhina tad'una min dunillah لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. الحج 73. نعم الحج 73 c'est-à-dire en français homme, oh homme, une parabole vous est proposée, écoutez et yani, réfléchissez, méditez. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah ne saurait même pas créer une mouche. Quand même, ils s'uniraient pour cela, tous. Ils vont s'unir pour créer une mouche. Mieux que cela, ou la pire, et si la mouche les dépouillait de quelque chose, ils ne sauraient le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont faibles. Donc, Allah Ta'ala veut leur prouver que c'est lui le créateur, le seul. Et il lance encore un défi. Je ne vous demande pas, pour que vous prouviez que vous êtes des créateurs, je ne vous demande pas de créer les cieux, sept cieux, ni cette terre, ni les astres, ni les comètes, ni le soleil, ni la mer, Créez-moi seulement une petite mouche, une mouche de rien du tout. Si vous pouvez, créez-moi une mouche. Et vous savez, si les Japonais, si c'est je ne sais qui, ceux qui ont la pointe de la technologie, resteraient toute leur vie à fabriquer, je ne dis pas à créer, à fabriquer une mouche qui peut ressembler à la mouche que Allah Ta'ala a créée de façon à ce qu'elle vole comme elle et qu'elle a des capacités comme la vraie mouche, jamais ils n'y arriveront. C'est un défi. J'ai bien dit, s'ils pouvaient fabriquer, créer. Alors qu'en est-il maintenant créer? Créer une mouche. C'est pour ça que Yom Al-Qiyam, Allah Ta'ala va dire à ceux qui photographier, etc., ou la faisait des statues. Il va lui dire, créez-moi, naam, chou'aïra, si vous pouvez, un petit cheveu. Naam. Voilà, un atome, c'est tout, si vous pouvez le créer. Ils ne pourront pas. Alors, Allah Ta'ala, quand il aura lancé le défi, naam, le défi de la mouche, il leur a dit, donc, vous ne saurez créer une mouche, même si vous allez tous vous unir. Tous. Tous les êtres humains, y compris avec les djinns, ils vont s'unir, et les djinns, vous savez la puissance que Allah Ta'ala leur a donnée. Comment qu'ils peuvent, une seconde, de l'Algérie, d'être aux États-Unis, d'être, ils vont s'unir avec les êtres humains pour créer une mouche, ils ne pourront pas. Pire que cela, Allah Ta'ala a dit, et si la mouche maintenant va leur faire du tort, un petit tort, ils ne peuvent pas se défendre. En donnant l'exemple que, autrefois, les adorateurs des temples, quand ils allaient vers leur statue pour les adorer, etc., ils voient des aliments. Des fois, ils posaient du musc, ils mettaient du musc pour que ça donne une bonne odeur. Maintenant, si la mouche vient et te prend une chose chère tu as posé pour ta statue. Elle te prend un peu des aliments ou bien un peu du muscle. Naam. Allez, Allah Ta'ala te dit, je te donne un défi, que tu puisses lui retirer ce qu'elle vient de prendre. Je te donne un défi, que tu puisses aller courir derrière elle, vous tous unis, les êtres humains et les djinns, aller courir derrière une mouche pour essayer de l'attraper, d'enlever ce qu'elle vous a pris. Donc il a dit, le solliciteur, c'est-à-dire la statue que vous adorez, et le solliciter aussi, la mouche. Les deux sont faibles, tous sont faibles. Et certains ont dit, le solliciteur, c'est celui qui court après la mouche, pour qu'il reprenne ce qu'elle lui a pris. Et le solliciter, c'est la mouche. Il a dit, les deux, tous sont faibles, faibles. Naam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi, toujours en leur lançant des défis, pour montrer que c'est lui qui crée. Il a dit, وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلُقُونَ. Regardez ce verset. Ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne créent rien. Et ils sont eux-mêmes créés. Donc, c'est aussi un défi. Il te dit que ceux que tu invoques en dehors d'Allah ne peuvent rien te créer. Tu te fatigues pour rien. Mieux que cela, Naam, ils sont eux-mêmes créés. Ils sont eux-mêmes créés, ceux que tu invoques en dehors d'Allah. Ils sont eux-mêmes créés. Si ce sont des êtres humains, il faut qu'ils soient créés par Allah. Si ce sont des animaux, ils ont été créés par Allah. Si ce sont des choses inertes, une statue, etc., certes, elle a été fabriquée par l'être humain. Mais Allah Ta'ala a donné la puissance à l'être humain pour la fabriquer, a été créée par Allah en toi. En toi pour que tu puisses fabriquer. Donc, la finalité de la chose, c'est que la statue aussi a été créée en ce sens. A été créée en ce sens. Naam. Ensuite, Allah Azza wa Jal pose une autre question, qui sont pleines de reproches. Lorsqu'il dit, regardez ce verset. Sourate An-Nahl 17. C'est-à-dire en français. Et ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne crient rien. Non, c'est pas celui-là, Afoun. Celui-là. Celui qui crée, est-il semblable à celui qui ne crée rien? Subhanallah al-Azim. Celui qui crée, est-il semblable à celui qui ne crée rien? Il dit ensuite, est-ce que vous vous souvenez pas, vous voulez pas méditer que celui qui crée n'est pas comme celui qui ne crée. Par conséquent, rien d'affiché. Rien d'affiché. Ni français ni arabe. Ni français ni arabe. Rien. Regardez maintenant. Maintenant, il n'y a pas. Et moi, il y a eu. Alhamdoulilah. Celui est-il semblable à celui qui ne crée rien? Il a dit, vous ne vous souvenez pas, hein? Vous voulez pas y aller méditer pour que vous voyez, hein, et que vous compreniez que celui qui ne crée rien, c'est impossible qu'il soit au même niveau que celui qui crée. Donc votre statue, c'est impossible qu'elle soit comme Allah. Pourquoi votre statue ne crée rien? Et la preuve, il a lancé tous les défis tout à l'heure, en parlant de la mouche de. Montrez-moi quelque chose, montrez-moi. Vous dites que la statue peut créer des choses. Montrez-moi qu'est-ce qu'elle crée. Montrez-moi une chose qu'elle a créée. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ensuite, Cheikh Hafidhahullah dit, Cheikh Fawzan Hafidhahullah dit, malgré ce défi répété, personne n'a revendiqué avoir créé quoi que ce soit, ni même prétendu, sans parler de prouver cela. Il est donc incontestable qu'Allah Azzawajal est l'unique créateur sans associé. Je répète, malgré ce défi répété et les défis qu'on a cités, personne n'a revendiqué avoir créé quoi que ce soit. Jamais une personne n'a dit, j'ai créé ceci ou cela. Personne, ni même prétendu cela, sans parler de prouver cela. Il a dit, il est donc incontestable qu'Allah Azza wa Jal est l'unique créateur et qu'il n'a pas d'associé. Ça, c'est la première preuve. La deuxième preuve maintenant. La deuxième preuve. Vous voyez quelque chose? Maintenant, l'Allah Azzawajal, Naam, basé sur l'organisation de l'univers et la perfection de son agencement, qui sont les preuves les plus manifestes que celui qui agence et régit cet univers est un Dieu unique, un Seigneur unique sans associé ni contestataire. Je répète, Allah Azzawajal va donner maintenant les preuves qu'il est un Dieu unique et un Seigneur unique sans associé, en se basant sur quoi? Sur le régissement de cet univers. Et l'organisation, Naam, comme pas deux, par là, de l'univers et la perfection de son régissement et de son agencement. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, une seconde, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Naam, il a dit, regardez ce verset, ما أخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله ما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون المؤمنون 91 المؤمنون 91 Il a dit, Allah ne s'est point attribué d'enfant et il n'existe point de divinité avec lui. Sinon, chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créé, et certains seraient supérieurs aux autres. Gloire et pureté à Allah, il est supérieur à tout ce qu'ils décrivent. Qu'est-ce que ça veut dire là? Qu'est-ce que ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qu'il a voulu dire avec ce? Je vais lire ce qu'a dit Cheikh Fawzan Hafidhahullah. Il est impératif que la véritable divinité, le vrai Dieu, soit créatrice et active. La véritable divinité, il faut qu'elle soit créatrice, elle crée et active. S'il y avait une autre divinité qui partage son pouvoir, comme disent les kofars, cette statue d'un dieu. S'il y avait une autre divinité qui partage son pouvoir, qu'est-ce qui va se passer? Alors, elle aurait le pouvoir de création et d'action elle aussi. Elle ne va pas tolérer l'association avec une autre divinité. Bien plus, si elle avait la capacité de dominer son associé et d'avoir le monopole de la souveraineté et de la divinité, elle le ferait. Regardez, c'est ce qu'a dit Allah Azza wa Jal. Il a dit, bon, il n'avait pas d'enfant, etc. Ensuite, il a dit, non, sinon, c'est-à-dire s'il y avait une autre divinité avec lui, alors chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créé. Non, le dieu du soleil. Il dit, moi, je m'occupe de mon soleil, je n'aime que personne ne rentre avec moi dans cette affaire. C'est moi le dieu du soleil, par exemple, et de la pluie. Donc, je m'en occupe et je ne permets à aucun autre dieu de toucher avec moi cette chose. Et l'autre, il s'occupe, par exemple, d'autres choses, et comme ça, alors, Yannick, qu'est-ce qui va se passer? Ce serait grave. Les choses, Yannick, ne seraient jamais Yannick, synchronisées dans cet univers. Et il y aurait un désordre total. Et pire que cela, le Dieu qui se sentirait plus fort que l'autre, essayerait de monopoliser les choses. Il va dire, je voudrais que ce soit moi tout seul qui commande. C'est comme ça. Personne ne voudrait qu'il mène la barque avec lui. Il voudrait que ce soit lui tout seul qui commande la barque. C'est comme ça les rois. Jamais il n'accepte qu'un autre roi vienne partager avec lui le pouvoir. Naam. C'est pour ça que Cheikh Hafidhahullah dit, Cheikh Fawzan, il a dit, au cas où elle serait incapable de dominer l'associé. Maintenant, il y a un deuxième dieu et il est incapable de dominer l'autre dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, cette divinité se singulariserait par une partie de la royauté et de la création. Comme tous les rois de ce bas monde se singularisent tous par leur propre royaume. Donc, il y a un Dieu. Et qu'aucun Dieu ne peut dominer l'autre pour s'accaparer le pouvoir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donc se partager. Chacun va dire Ça, c'est pour moi. Moi, je prends de ce côté, toi, tu prends l'autre. Et ils vont quoi? Singulariser leur royaume. Un partage aura donc lieu. Ainsi, trois cas de figure s'imposent. Ainsi, trois cas de figure s'imposent. Quatrième. Premier cas de figure. Soit une des deux divinités domine l'autre et s'accapare le pouvoir pour elle seule. Quand il y a deux divinités, soit une des deux domine l'autre et elle va prendre quoi, le pouvoir pour elle seule. Ou alors, soit chacune se singularise de l'autre par sa souveraineté création. Chacune va prendre une partie de l'univers et dit voilà, moi je commande ce côté car c'est moi qui ai créé telle et telle chose et toi tu prends l'autre. Ça va donner lieu quoi? À une grande division dans cet univers. Non, une grande division. L'autre il veut la pluie demain, l'autre il dit non. Je veux le soleil demain, un jour ensoleillé. L'autre il dit non. Moi je veux qu'il y ait la pluie et la neige. Non, il y aura une grande division. L'autre, je vais créer celui-là comme garçon. L'autre il dit non. Je veux qu'il soit une fille. Non. Il va y avoir une grande discorde. Allah l'adhim. Et non. Troisième alternative, il ne reste que ça aussi, c'est quoi? Soit elles sont sous l'autorité d'un seul souverain qui dispose d'elles comme et serait donc la véritable divinité et elle serait si subordonnée. Et c'est cette dernière proposition qui est correcte. Non. Donc la troisième, soit elles sont sous l'autorité d'un seul Dieu, un seul, qui dispose d'elle comme il veut, et serait lui la vraie divinité, et elle serait seulement les subordonnées. Cette proposition, dit Cheikh Fawzan Hafidhahullah, c'est celle qui est correcte, car il n'y a jamais eu de division dans l'univers, ni de désordre. Naam. Ce qui démontre que son régisseur est unique, sans opposant, et que ce qui est propriétaire est un seul, sans associé. Vous avez compris, s'il y avait deux, il y aurait eu un grand désordre. Alors nous, on ne voit pas de désordre. Jamais on n'a vu qu'il y avait de désordre dans cet univers. Tout marche, yani, comme on dit en français, on dit à l'aiguille, comme une montre, yani, tout marche à la seconde, tout est synchronisé, calculé, subhanallah, à la perfection. Donc ce qui prouve quoi? Que c'est impossible qu'il y ait deux, tout marche à la perfection. C'est impossible qu'il y ait deux dieux. À cause de quoi? À cause du désordre qu'il n'y a pas. Donc à cause de l'ordre qu'il y a. À cause de l'ordre qu'il y a. Non, mais la perfection qu'il y a, ça prouve qu'il y a un seul, qu'il n'y en a pas deux. Maintenant, la dernière preuve, on a vu deux preuves. La première preuve, c'était quoi? C'était que tout fait nécessite une cause. La deuxième, l'organisation, Naam, et la perfection de l'univers, qui est une preuve aussi irréfutable. Troisième preuve, c'est quoi? Les créatures s'en tiennent aux fonctions qui leur ont été assignées et assument leur rôle spécifique. Les créatures s'en tiennent aux fonctions qui leur ont été assignées et assument leur rôle spécifique. Cheikh dit Hafidhahullah, aucune créature ne se révolte et refuse d'accomplir la tâche dans cet univers. C'est ce qu'a avancé d'ailleurs Moïse, alayhi salam, Moussa, comment? Lorsque Pharaon lui posa la question présente. Non. Pharaon, lorsqu'il a dit à Moussa, alayhi salam, il a dit, Men rabboukouma ya Moussa, Taha 49. Qui est donc votre Seigneur, ô Moïse? Qui est donc votre Seigneur? Regardez ce que répond Moussa, alayhi salam. Regardez ce qu'il lui a répondu. Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Taha 50. Il a dit, notre Seigneur, notre Pharaon, notre Seigneur. C'est celui qui a donné à chaque chose sa propre nature guidée. chaque chose que l'on a créée, il s'en a il a créé, ensuite il l'a guidé, il lui a montré comment qu'elle doit y aller, ce qu'elle doit faire dans cette vie. Il n'a pas créé, ensuite l'a laissé comme ça. Le soleil, il fait ce qu'il veut. Le soleil se lève quand il veut, il prend la vitesse qu'il veut et la direction qu'il veut. Et la pluie, elle tombe quand elle veut, et comme ça. Non. Non. Toute chose, quand il l'a créée, il l'a guidée. Il lui a montré, non, comment qu'elle doit quoi? Comment qu'elle doit accomplir sa tâche dans cet univers avec précision. Précision, comment qu'elle doit faire. Non. Je parle là-dedans. Non. C'est-à-dire, cher Fauzandi, c'est-à-dire que notre Seigneur est lui qui a créé l'ensemble des créatures et a donné à chaque créature la forme qui lui convient, la taille du corps, grande, petite, moyenne, et toutes ses caractéristiques. Ensuite, il a orienté chaque créature vers ce pourquoi elle a été créée. Donc, il s'agit de l'orientation qui indique la fonction qu'elle doit remplir et qui relève de l'inspiration. C'est une orientation qui est observée chez toutes les créatures. Ainsi, on constate que chaque créature s'emploie à concrétiser les intérêts pour lesquels elle a été créée et à éviter ce qui lui est néfaste. À un tel point qu'Allah Azzawajal a donné aux bestiaux, les animaux, le discernement et la distinction leur permettant de faire ce qui leur est bénéfique et d'éviter ce qui leur est nuisible et d'accomplir leur mission dans la vie. C'est ce qu'évoque l'Azawj lorsqu'il a dit dans le Coran, il a dit: Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa, sijda 7. Celui qui a bien fait ce qu'il a créé. Tout ce qu'il a créé, l'a bien fait. Il n'y a pas une chose que Allah a créée, qui se révolte contre lui et qui dit: je n'accepte pas que je fasse telle et telle mission et telle fonction. Il n'y a pas. Est-ce qu'un jour le soleil a décidé de se lever du couchant? C'est pas possible. Est-ce qu'un jour le soleil a décidé de descendre un peu plus bas d'1 mètre? C'est pas possible. De monter d'1 mètre, c'est pas possible. Est-ce qu'un jour le soleil a décidé de changer de couleur? Il a dit: je vais devenir bleu ou bien vert. Je commande. C'est pas possible. Naam. Donc chaque créature, naam, a été créée, ensuite doit remplir la fonction qu'Allah Ta'ala lui a enjoint, naam, sans yani, rouspéter, sans naam. Elle doit le faire comme il se doit, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ensuite il dit ici: celui qui a créé toutes les créatures leur a donné leur forme harmonieuse que les esprits ne peuvent concevoir de plus belle et les a guidés vers leurs intérêts, c'est le véritable Seigneur. Renier cela revient à renier ce qui existe de plus. Ce ne serait alors qu'orgueil et mensonge effronté. Là. Quand il a dit ici, il a dit que Allah Ta'ala, qui a créé l'ensemble des créatures, il a donné à chaque la forme qui lui convient, la taille du corps, grande, petite, moyenne, et toutes les caractéristiques. Et ensuite l'a orienté. Cher dit, Allah Azzawajal a accordé aux créatures tout ce dont elles ont besoin dans ce monde et leur a montré comment en tirer profit. Et il n'y a pas de doute qu'il a donné à chaque espèce la forme et son aspect les plus adéquats. Il y a chaque mâle et femelle d'une espèce donnée lui a adapté, que ce soit au niveau de la copulation, de l'affinité ou de la concorde. Il a donné de plus à chaque membre la forme appropriée pour pouvoir réaliser le rôle qui lui est dévolu. Ça me rappelle par exemple le singe. Vous avez vu physiquement, yani, le singe nous ressemble un peu. Mais, par exemple, on prend un exemple très simple. Les mêmes mains que nous. Si on voit bien la main du singe, elle a 5 doigts. Mais, pas des doigts comme nous. Pourquoi? Parce que lui, il a été créé pour vivre dans la forêt. Il lui faut des doigts. Il lui faut une main spéciale avec laquelle il puisse s'agripper vite et tenir les branches des arbres. Sinon, avec une main comme la nôtre, il tomberait vite. Il essaie de prendre la branche, il ne la prend pas bien, il tombe. Non. Mais des doigts spéciaux. Spéciaux pour vivre dans la forêt. C'est un exemple. Il a donné à chaque créature la forme. Non. Je parle à l'adim, comme dit, même si puis. Comme dit. Il a dit que les hommes, il leur a même yani, inspiré la façon comment s'accoupler. Quand il y a des animaux qui sont d'une espèce où ça devient difficile de s'accoupler, pas comme un homme et une femme facilement. Pour faire cette chose-là, elle l'a inspiré. Sinon, il n'aurait jamais su comment faire la chose. Non. Si vous voyez par exemple comment le bébé, subhanallah, comment il a inspiré à aller directement, à commencer à pleurer pour chercher la poitrine de sa mère. Quand elle lui donne sa poitrine, il sait qu'il faut quoi? Il faut, c'est-à-dire, sucer. Il faut sucer, non. C'est comme ça qu'il doit faire. Alors qu'il vient juste de venir dans ce monde. Ça fait quelques secondes qu'il vient. Personne ne lui a dit, voilà ce que tu dois faire. Mais. Celui qui a créé, l'a dirigé, l'a guidé, pour qu'il sache quels sont ses intérêts et qu'il refoule les nuisances. Là, même les bestiaux, comme on l'a dit. Le cheikh dit, rahimahullah, hafidahullah, ce qui ne fait l'ombre d'un doute, c'est que la finalité de l'affirmation de l'unicité d'Allah Azzawajal dans la seigneurie par rapport à sa création, et dans des... Avant cela, pour la khalim, allez, je termine et je reviens. Ce qui ne donne aucun doute, c'est quoi? C'est clarté de l'affirmation de l'unicité d'Allah, naam, tawhid, tawhid, l'ibada, dans la seigneurie par rapport à sa création, c'est quoi? C'est d'en déduire le caractère obligatoire de son adoration seule et sans associé. C'est ce qui est appelé l'unicité. Quand bien même, quelqu'un reconnaîtrait l'unicité de la seigneurie, mais pas celle de la divinité, ou de manière incorrecte, celui-là ne sera pas musulman ni monothéiste, mais plutôt un mécréant renégat. Ce sujet sera abordé au chapitre suivant, inshallah ta'ala. Bien sûr, Allah ta'ala montre tout ça, sa seigneurie. Il veut te montrer que c'est lui le seigneur du monde. Pourquoi? Juste pour te montrer. Non. Il veut te montrer tout cela pour que tu l'adores, pour l'adorer. C'est pour cela que s'il y a seulement s'il y a seulement unicité de la Seigneurie et il n'y a pas adoration, donc tu n'es pas musulman. Donc il attend. C'est pour ça que les kofars d'autrefois connaissaient que c'était Allah qui faisait tomber la pluie, etc. Mais ils n'ont pas adoré. Moi-même, je reviens un peu en marche arrière quand il a dit que. Il a donné à chaque espèce sa forme et son aspect les plus adéquats. Il a donné à chaque mâle, chaque femelle d'une espèce donnée la forme qui lui est adaptée, etc., etc. Je dis, regardez par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé les animaux, et il leur a inspiré comment il doit faire pour qu'ils vivent, s'attirent, et attirent les bienfaits, et pour qu'ils repoussent les nuisances. Même pour nous, subhanallah azza wa jal, j'ai remarqué, si vous avez remarqué, mais j'ai remarqué que par exemple, les animaux dangereux, ce qu'on appelle peur, qui mangent les hommes, etc., qui sont dangereux, il les a façonnés d'une façon, il leur a donné une façon qui, déjà, lorsque tu les vois, tu as peur. Les animaux qui sont dangereux, quand tu le vois déjà, tu as peur de lui. Et cette peur, alhamdoulilah, Allah te l'a donnée pourquoi? Pour que tu refoules et tu repousses cette grande nuisance. Car il peut te manger, te dévorer. Naam. Car si tu n'avais pas cette peur de lui, tu irais vers lui. Tu aurais dit, Masha'Allah, cet animal, comme il est gentil, et tu t'approches de lui, il te dévore. Et par contre, les animaux qui ne sont pas dangereux, subhanallah, Allah Ta'ala leur a donné une forme, yani, comme on dit, douce. Comparé par exemple entre le crocodile, comment qu'il est. Le voir déjà, on a peur de lui. Le serpent. Serpent, quand tu le vois déjà sa tête, ah, tu as envie de. Si tu es dans un appartement, tout l'appartement. Et certains même peut-être vont quitter le quartier. À dire, moi j'ai peur des serpents. Un moyen. Et regardez par exemple quand tu as le mouton. Pourquoi on n'a pas peur du mouton? Tu le vois, tu n'as pas peur de lui. Pourquoi peur du lapin? Le lapin, on n'a pas peur de lui. La poule, non. À le voir déjà, il ne te fait pas peur. Et bien remarqué, subhanallah al-azim, entre deux animaux qui se ressemblent beaucoup, non, et qui sont une preuve yani, irréfutable pour ce que je suis, dans ce que je suis à dire. Si vous remarquez la différence, le requin et le dauphin. Subhanallah, le requin, à le voir déjà, tu as peur. Alors, s'il ouvre sa bouche, allez, ça, pour voir ses dents, etc., c'est encore plus peur. Par contre, si tu vois le dauphin, tu n'as pas peur. Le dauphin, à méditer seulement son visage, tu as l'impression qu'il est en train de rire ou de sourire. Subhanallah, le dauphin, on le prend en piscine, etc. Etc. So, il fait je ne sais quoi comme pourquoi ils savent que Masha'Allah, il est beau, il est inoffensif et qu'il sourit. Et le requin, tu le vois, il n'y a pas de sourire chez lui. Abadan. Même quand il attaque, ils disent que il mange même des choses en fer. Il trouve comme ça une boîte en fer, il la mange. Tellement il mange tout. C'est pour ça qu'on n'a jamais vu, vous avez vu une fois dans une piscine, des entraîneurs en train d'entraîner un requin qui saute dans un cerceau. On n'a jamais vu ça. Subhanallah. Non. Féroce, très féroce. Subhanallah. Non. Je disais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, même les bestiaux, tous les bestiaux, comme le bébé qui naît, il est guidé. Pour qu'il aille directement vers la porte de sa mère, même les bébés, les animaux, eux aussi sont guidés encore, parce que eux, ils ont beaucoup plus besoin de guider que et de guidance que nous en ce sens. Non, toi, au moins, tu sais que tu as faim, tu vas acheter, etc. Et l'animal, comment qu'il fait? Est-ce qu'il va au supermarché? Il va pas. Quand il est malade, où est-ce qu'il va? Il va chez le docteur, il n'y a pas. Mais Allah Ta'ala les a guidés. Puisse y ça, tous les bienfaits refoulés, toutes les nuisances. Moi, j'ai vu une fois un chien en train de manger une herbe. Non, je me suis étonné. Le chien, il mange l'herbe. Quelqu'un m'a dit, pourquoi il fait ça? Il m'a dit, le chien, quand il a la diarrhée, il est malade. Ne va pas aller chez le pharmacien et il demande. Il y a une herbe spéciale. Qu'il mange, il n'a été à la va le guérir. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux en train de manger cette. Le chien. Purge. Et si vous voyez comment Allah a donné ce qu'il a donné, comme guider aux animaux, vous allez vous étonner. Si quelqu'un veut voir comment vraiment les animaux ont été guidés, qu'ils lisent quoi? Qu'ils lisent le livre Shifa al-Alil. Fima ou le Qadar ou le Hikma ou Ta'lil. Shifa al-Alil, il s'appelle comme ça le livre. Son début Shifa al-Alil. Il y a un chapitre spécialement pour les animaux. Comment Allah Ta'ala les a guidés. Comment Allah subhanahu wa ta'ala a guidé les animaux. Non. Et il parle yani, de beaucoup d'animaux. Comment ils ont été guidés? Par exemple, des abeilles. Comment les abeilles sont guidées, comment qu'elles sont organisées avec la reine et les autres, et comment qu'ils préparent la ruche, et comment une abeille, la ruche, combien qu'elle contient de ce qu'on appelle de trous, peut-être une centaine, je ne sais pas combien, jamais une abeille ne se trompe et rentre dans un autre, le sien. Subhanallah, et comment yani, qu'il travaille à l'intérieur de la ruche, etc. Vraiment, des êtres humains ne pourraient jamais faire cela. Non. Allah Ta'ala les a guidés d'une façon extraordinaire. Et comme ça, tous les animaux. C'est comme les hirondelles. Non, les hirondelles. Allez voir comment qu'elles font leur nid. C'est étonnant. Même les hérons, quand on les voit sur les émeutes, ils font leur nid. À chaque comme ça, je m'étonne. Je me dis comment qu'ils peuvent faire un nid. Un architecte ou pas? Il fait. Non. Ibn al-Qayyim, quand il parle aussi, il parle du chacal. Il dit, le chacal, quand il se voit qu'il est rempli de puces, comment qu'il va enlever le puce? Il n'y a pas un docteur animal qui enlève les puces. Il a dit, il va chercher jusqu'à ce qu'il trouve une peau d'un animal, par exemple, jetée comme ça, non, qui vient de mourir. Il a dit, il prend sa peau, il la met dans sa bouche. Puis il a dit, il va dans un endroit, ils ont une mare ou un pied. Il a dit, il fait rentrer ses pieds. Quand il fait rentrer son pied, les puces qui sont dans les pieds commencent à monter. Ensuite, il fait rentrer jusqu'aux cuisses. Ensuite, les puces montent encore. Ensuite, il fait rentrer, ils ont jusqu'à, les puces montent encore. Ensuite, jusqu'au cou, il fait rentrer son cou dans le lac. Les puces montent. Et maintenant, elles n'ont plus de solution que quoi? Que de monter sur la peau qu'il avait dans la bouche. Il lâche la peau et il sort en riant. Il sort en riant, il leur dit, allez, bonnes vacances. Non, mais il sort et il les laisse sur la peau. Subhanallah, qui lui a montré cette ruse-là? Qui lui a montré cette ruse? Subhanallah. Et lorsqu'il Allah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il parle, Allah subhanahu wa ta'ala, du verset de la fourmi, que vous connaissez tous, avec alayhi salam. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, une seconde de verset, lorsque Allah ta'ala dit dans le Coran, il a dit, une seconde, je ne vois pas le verset, il a dit, Hatta ida atu ala wadi namli. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. النمل 18, سورة النمل 18, c'est-à-dire en français, quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit, ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Suleyman et ses armées ne vous écrasent sous leur sans s'en rendre compte. Imaginez, une fourmi passe pareil. Elle commence par les interpeller. Fourmi. Dit directement. Nam. Une seconde. Elle n'a pas dit. Est-ce que vous maintenant vous m'entendez? Taillez pour. De coupure. Petite coupure. Taillez. Donc je disais, elle n'a pas dit directement. Yani, entrez dans vos deux, les a d'abord interpellés, oh, fourmis. Ensuite, comme disent les savants en arabe, elle a employé Ayyuha, Ayyuha, Naam, le Mubham. Ensuite, elle a dit les fourmis, ça pour que ça soit généralisé. Et c'est le djinns, oh, vous les fourmis, qu'est-ce que vous devez faire? Ensuite, elle a donné un ordre, entrez dans vos demeures. Une fourmi qui donne un ordre, entrez dans vos demeures. Naam. Ensuite, elle montre la cause. Pourquoi vous allez entrer? Elle dit, de peur que ce ne vous écrase. Voilà la cause. C'est pas un ici, je vous commande. C'est pas je vous commande ici, je suis un tyran, moi. Non. Moi, je vous veux vos intérêts. Entrez pour que vous ne soyez pas écrasés. Subhanallah al-Azim. Et dans le Coran, c'est cité, est-ce que vous m'entendez? Dans le Coran, c'est pas si t'es écrasé. La yahtiman, si est brisé. Pour que vous ne soyez pas brisé et cassé. Non, il dit ça, dit, subhanallah, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a employé le mot cassé, pour que vous ne soyez pas brisés et cassés par l'armée de Suleyman. Ils ont prouvé maintenant tout dernièrement que quoi? Que la fourmi contenait quoi? Contenait des vers en elle-même. Le ver, je veux dire le ver avec la glace, etc. Le ver, c'est-à-dire la vitre, comme le ver dans le Naam, contenait du ver, subhanallah al-azim. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a employé le mot pour que vous ne soyez pas brisé et cassé par l'homme. On n'a pas dit tuer. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle a dit à la fin? Une seconde. Allez, pourquoi? Pour que vous ne soyez pas brisé. Hein? De peur que sous les mains ses armées ne vous écrasent sous leurs pieds sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a donné l'excuse de Souleymane. Elle dit Souleymane, elle veut montrer que c'est un prophète. C'est pas quelqu'un qui tue une fourmi et tue des fourmis sans raison. Et s'il vous arrive cela, il l'aurait fait sans s'en rendre compte. Il ne l'aurait pas fait sciemment. C'est pour ça que dans un hadith, autant qu'une fois, un prophète s'était adossé contre un Dieu. Alors, il a demandé le feu et a brûlé toutes les fourmis qui avaient dans le nez. Il lui a inspiré, il lui a dit, pourquoi tu fais ça? À cause d'une fourmi qui t'a mordu, tu tues, ou bien une nation de fourmis qui me fait le tesbih. Une nation de fourmis fait le tesbih. C'est interdit de tuer la fourmi sans raison apparente. Elle fait partie des 5 ou 6 animaux qu'on ne doit pas tuer sans raison valable, vu aussi son intelligence. Naam. Et pour nous, la fourmi, c'est quoi? C'est un petit animal ou l'insecte ou là qui n'a à peine si on peut le voir quand on marche. Et on le calcule même pas ni on lui donne l'importance. Alors que pour Allah subhanahu wa ta'ala, il a yani sa valeur. Au point qu'Allah ta'ala a interdit qu'on le tue. Et la preuve, regardez une fourmi, ce qu'elle a dit yani, à Suleyman, aux autres fourmis. Et ce qui mêle aussi que Allah Ta'ala guidait vraiment les animaux. Ce qui me rappelle, en parlant du chien tout à l'heure, Naam, comment le chien, subhanallah l'adim, et vient toujours à la maison. Une fois, ça fait longtemps, c'est-à-dire que moi-même, j'étais pas. Je veux pas dire j'étais pas dans le din, ça veut dire j'étais kafir. Non, j'étais pas dans la nature. Ramener un chien à la maison, on habitait au 5e étage. Et un chien, même pas un chien, un chien de chasse. Je sais pas pourquoi je l'ai ramené autrefois, quand quelqu'un n'est pas sur la droiture, il fait n'importe quoi. Al-Muhim. Ensuite, bien sûr. Les parents n'ont pas accepté. Il restait 3-4 jours. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait là au 5e étage, un chien, sans raison valable? Qu'est-ce qu'il fait? Je peux pas aller jeter le chien comme ça dans la rue, en plein centre, Alger. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, j'ai une idée. Je le mets dans la voiture et je suis allé à 5 ou 6 km, peut-être 8 à peu près, c'est-à-dire l'autre côté d'Alger. Je me suis approché de la maison de celui qui me l'a donné. Il restait peut-être 50 mètres. Et je l'ai déposé là-bas. Je me suis dit, c'est sûr, il va aller chez son premier propriétaire. Et alhamdoulilah, il est allé là-bas. Il est allé là-bas. Il est resté 30, alhamdoulilah. Et je ne sais pas, les 10 jours ou 15 jours, je ne me rappelle plus. Il était peut-être 10 heures du matin, j'entends quelqu'un ou quelque chose qui gratte la porte. J'ai dit, Allahu Akbar, j'espère que ce n'est pas le chien qui est revenu. Je viens comment qu'il va monter. On est loin, 10 km de la maison. C'était lui qui est revenu. J'ai dit, Subhanallah, l'adhim. Subhanallah, Subhanallah al-Azim, il est revenu. Al-Muhim. Autrefois, je me rappelle quand j'étais petit. J'habitais chez mon grand-père, l'arrière-campagne. On avait des chats qui venaient spécialement, des chats sauvages, pas de chez nous, de voisins ou je ne sais d'où, qui venaient pour gagner des pains, etc. Surtout les poussins. Chaque fois, ils prenaient des poussins. Grand-père, l'arrière-campagne, a dit de deux ou trois, je ne sais pas combien, il les a mis dans un sac, un grand sac. Il les a mis dans la malle de la voiture et les a emmenés à 12 km. Dans une ville qui est loin de 12 km de la maison de mon grand-père Lahmo. Et il ouvrait le sac et les laissait dans la forêt. Là, le lendemain, quand on se lève dans la maison, on les a déposés dans la forêt, on les trouve dans la cour. On les trouve, ils sont là, dans la cour. Donc, comment le chat peut faire 12 mètres sans avoir jamais fait cet itinéraire? Jamais le chat n'est parti vers cette forêt à 12 km. Subhanallah al-Azim, qui le fait revenir kilomètres? Subhanallah al-Azim. Et il était dans un sac. Si de la voiture, peut-être il a vu, s'est rappelé. C'est possible. Sans qu'il revienne comme ça. Qu'en est-il d'il? Ah, hein. Qu'en est-il des gens voyageurs du port? Alhamdulillah. Je disais les pigeons voyageurs, c'est vraiment étonnant. Comment qu'ils peuvent faire des centaines de kilomètres avec les yeux bandés? Non, avec les yeux bandés, ils font 100, 200, peut-être 1000 kilomètres. Et subhanallah, ne loupe jamais. Ne loupe jamais la maison, même si c'est dans un 70e étage. Il va directement yani, à la fenêtre. Il la loupe jamais. Qui lui a donné ça? Subhanallah, c'est incroyable. Y a un hadith authentique. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a dit authentique. Et il a été rapporté par Dara, si je n'oublie pas. Et sa base, yani Aslo, se trouve aussi dans le Bukhari. Qu'une fois, est-ce que vous m'entendez? Écrivez numéro 1. Alhamdulillah. Qu'une fois, un singe était en train de dormir, un singe était en train de dormir avec sa guenon, c'est-à-dire sa femelle, et des enfants, deux ou trois. Il y a quelqu'un qui a dit, il a dit, j'étais chez mes cousins à la campagne, alors je suis allé avec mon cousin qui était berger, je suis allé en y passer la journée avec lui. Il a dit, on a laissé les moutons en bas et on est monté sur le sommet de la montagne. Il a dit, j'étais en train de contempler comme ça la prairie, quand j'ai vu en bas, il a dit, j'ai vu quoi? J'ai vu un singe et la guenon et je crois deux ou trois enfants yannés en train de dormir. Il a dit, quand j'ai remarqué qu'un singe a commencé à s'approcher de cette famille doucement, 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 ensuite il a posé sa main sur la guenon et l'a réveillé. Il a dit ensuite, il a fait demi-tour, il a rebroussé chemin et elle a commencé à le suivre. Il a dit, ensuite, ils se sont éloignés un peu, quelques mètres, ils ont fait la zina, le singe avec la guenon. Il a dit, ensuite, la guenon est revenue vers sa famille, et le singe est parti. Il a dit, quand elle est revenue vers sa famille, elle s'est mise à dormir. Elle a repris sa place. Il a dit, alors, son mari, a senti l'odeur de la singe. Subhanallah al-Adhim. Il a dit, il s'est réveillé et a commencé à crier, à hurler, à hurler. Les singes qui étaient dans les environs sont venus. Ils ont compris ce qu'il a voulu. Ils sont allés avec lui chercher le singe. Ils l'ont rattrapé. Singe. Dans l'histoire, c'est singe. Ils l'ont rattrapé, il a dit, et ils l'ont pris lui et la guenon de Yani du singe qui a fait la zina. Et l'autre, Ils sont partis chercher le singe. Ils l'ont rattrapé. Ensuite, ils ont ramené la guenon qui a fait la zina avec lui. Et les singes, tous les autres singes, ont pris des cailloux et ont lapidé celui qui a fait la zina. Naam. Le singe et la guenon. Ils les ont lapidés avec des cailloux jusqu'à la mort. Jusqu'à ce qu'ils soient morts les deux. Les savants ont dit, subhanallah al-adhim, regardez, des singes n'ont pas accepté la zina. Et ils ont appliqué la loi d'Allah Ta'ala, le talion, la loi du talion. Elle est dans le Bukhari, l'asl, naam. Elle est dans le Bukhari, mais en détail, elle se trouve dans le Dharqutni. Il a dit, regardez, des singes et ont appliqué la loi du talion, ils n'ont pas accepté la zina. Naam. Et ils les ont frappés avec les cailloux jusqu'à la mort. Et dire que il y a des gens qui font la prière et ils font la zina. Il y a des gens qui ont la barbe et des sœurs qui ont le djilbab et qui font la zina et qui ont fait la zina, a'oudou billah. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Des singes n'ont pas accepté. Subhanallah al-Adhim. Et ce qui prouve que vraiment, subhanahu wa ta'ala, guider les animaux. Le hadith qu'a authentifié Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Il a dit, hadith authentique dans Sahih Al-Jami'. Qu'une fois, quelqu'un vendait du vin et il lui mélangeait de l'eau. Quand le vin n'était pas encore interdit. Il vendait le vin, le vin rouge, et lui ajoutait de l'eau. Et il a amassé une somme d'argent, machin. Il a dit, maintenant je repars chez moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté un singe et il est monté dans la barque et il est parti. Cette barque avait un mât, ce qu'on appelle le mât où il y a la voile, une barque à voile. Et il y a un nez avec le singe et l'argent dans un sac plein d'argent. Quand ils sont arrivés au milieu de la mer, le singe a pris la gourde et il est monté tout en haut du mât. Tout en haut. Naam. Il est en haut avec la gourde. Et l'autre en bas, comment qu'il va faire? Comment faire comprendre à un singe que ce que tu fais, c'est vraiment grave. Ça fait des années que je travaille, que j'amasse de l'argent. Maintenant, toi, tu es un singe. Hein, tu peux jeter facilement toute la gourde dans l'eau. Comment donc lui faire comprendre qu'il doit descendre et lui donner la gourde? Le singe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la gourde. Le hadith a été authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Il a ouvert la gourde. Et c'était des louis d'or, des louis d'or. Il a pris le premier louis d'or, il l'a jeté dans la mer. Il a pris le deuxième, il l'a jeté dans la barque. Le troisième, dans la mer. Le quatrième, dans la barque. Et comme ça, jusqu'à ce que quoi? Il a vidé la gourde. C'est-à-dire, il a jeté la moitié dans la mer et la moitié dans la barque. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, c'est comme si le singe a dit au propriétaire de la gourde, le trafiquant, il lui a dit, écoute, yani l'eau que tu as ajoutée, voilà, l'argent que tu as eu à cause de l'eau que tu as ajoutée, cet argent ou cet or va être jeté à l'eau. L'eau pour l'eau. Naam. Et l'or que je t'ai jeté, c'est l'or halal. Yani, pour lequel tu as travaillé, tu as sué. Sinon, tout l'eau que tu as jeté, l'or que tu as eu de cette eau, je l'ai jeté dans l'eau. Qui lui a dit de faire ça au singe? Qui l'a inspiré pour qu'il fasse une chose pareille? Un singe? Ça veut dire que c'est vraiment Allah Ta'ala a puni cette personne. En quoi? En employant ce singe pour le punir. Voilà donc, Inch'Allah Ta'ala, ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. C'est que, il n'y a pas une créature que Allah Subhanahu wa Ta'ala n'a pas guidée. C'est pour vous montrer quoi? Yani la seigneurie. La seigneurie. Pour que nous, on fasse l'unité de la seigneurie, Inch'Allah Ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك le temps إن شاء الله تعالى que vous prépariez vos questions نعم on se rencontre إن شاء الله تعالى dans un quart السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيكم بارك الله
Donc première question, cher. Question d'une sœur. Ma question concerne toutes les choses qu'Allah a créées. Est-ce que la nourriture peut parler? Car j'ai entendu une histoire sur la viande empoisonnée qui a causé la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi cette viande ne l'a pas prévenue avant qu'elle était empoisonnée? Tfadal, cher.
Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est une question bonne et importante. Bonne et importante. Ce qu'on doit savoir, en général, ce qu'il faudrait bien comprendre, inshallah ta'ala, c'est que, à part les êtres humains, les animaux et les insectes et une âme, tout ce qui a une âme, à part cela, ce qu'on appelle nous les choses inertes, comme les arbres, le soleil, la lune, les montagnes, la mer, les choses inertes, les cailloux. Tout ce, il ne faut jamais dire d'eux, il ne faut jamais dire de ces choses qu'elles n'ont pas une vie. Ça, c'est faux. Mais il faut dire, le vrai terme, c'est quoi? Elles n'ont pas une vie apparente. Pour nous, on comprend pas, yani, comment qu'elles vivent. Sinon, elles ont une vie. Elles ont une vie. Naam. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé aux cieux et à la terre, lorsqu'il leur a dit, venez bon gré, mon gré, malgré, itiya taw'an aw karhan. Il leur a dit, vous venez. Et les cieux et la terre, s'ils ne vivent pas, donc ne peuvent pas comprendre. Il a parlé au feu de Ibrahim, lui a dit, ya naru kouni bardan wa salaman. Ô toi, feu, yani, sois froid et ne fasse pas de tort. Donc le feu a aussi une vie, comprends. Les cieux et la terre comprennent. Naam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé aussi aux montagnes, il leur a dit Yajibalu awibi ma'ahu at-tayr. Oh vous les montagnes, les oiseaux, yani, suivez ce Daoud alayhi salam, faites avec lui le tasbih et comme ça. Conclusion, tout ce qui a été créé a une vie. Mais on ne comprend pas, nous, comment la chose vit. Al-Muhim. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des cailloux lui parlait. Et une fois, notre prophète Moussa alayhi salam, une fois, il est rentré pour dans une mare pour nager. Et il avait nagé nu, car il était seul. Mais les juifs, non. Les juifs, quand ils nageaient en groupe et nu. Ils ont dit, elle ne veut jamais nager avec nous. Donc, il a un défaut quelque part dans son corps. Non. Parce que toujours, lui, il nageait seul, il nageait nu. Donc, un prophète ne va pas montrer sa aura aux gens. Mais eux, ils l'ont accusé. Une fois, il est rentré dans la mare pour nager, il a déposé ses vêtements sur un petit, disons, un petit caillou, un petit rocher. Ce rocher ou ce caillou, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfui avec les vêtements de Moussa alayhi salam. Le hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari. Moussa alayhi salam, quand il a vu le caillou, bien le courir avec ses vêtements, Tayyib, confirmez-moi si vous m'entendez. Alors qu'est-ce qu'il a sorti vite et il a commencé à courir derrière le caillou, il l'a rattrapé et il l'a frappé avec un bâton. Il l'a frappé 4 ou 5 coups, ou 3 ou 4 coups, comme a dit Abu Huraira dans Sahih al-Bukhari. Ce qui fait que même le caillou, donc Moussa alayhi salam, comprenez que il a une vie et que si je le frappe, sinon on ne frappe pas un caillou pour rien. Al-Muhim. La viande qu'a mangé le prophète alayhi salam et dont la sorcière, c'est pas la sorcière, c'est bon, j'ai oublié. Donc il a été, disons, c'est pas ensorcelé, non. J'ai pas trouvé le mot. Comment qu'on dit sihr en français? Empoisonné. Je ne crois pas. Un sort. Envoûté. D'accord. Ensorcelé. Ensorcelé, envoûté. Ça. Allez. C'est une femme qui s'appelait Zainab bint al-Harith, une juive qui l'a ensorcelé. Nam. Quand il a mangé, Allah Ta'ala a inspiré la viande pour qu'elle parle. Pourquoi n'avait pas parlé au début, comme a dit la sœur? Allah Ta'ala voulait une hikma derrière cela. Quelle est la hikma derrière cela? Non. Pour que, yani, ça allait quoi d'un côté? Ça allait être la cause de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car toute sa vie, il a eu des douleurs, toute sa vie. Et certains ont dit qu'il est mort shahid. Il est mort, yani empoisonné par une juive. Naam. Et yani c'est une preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut, toute chose peut parler. Juste qu'il lui donne l'ordre ou qu'il la laisse parler. Et elle parle bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam.
Non, donc il y a une sœur hein, qui m'écrit en PV et qui me dit au micro sur le fait que les questions n'étaient pas prêtes à l'avance. Et c'est pour dire aux frères et sœurs, ce n'est pas pour vous mettre mal à l'aise que j'ai fait cette réflexion, mais au contraire, pour vous sensibiliser sur le travail des admins et pour qu'on ait une meilleure gestion et pour qu'on puisse poser le maximum de questions. Et c'était tout simplement le sens de ma réflexion. Barakallahu. Donc si votre question n'était pas prête, Inch'Allah, c'est pour que vous preniez compte pour les prochains cours que vos questions doivent être prêtes à l'avance. Barakallahu fikoum. Donc question suivante. Hafizakum Allah ya cher, ainsi que tous mes frères et sœurs. Nous avons parlé aujourd'hui sur Tawhid Rububiyya. J'aimerais savoir de quoi parler exactement avec une personne kafira, mais qui croit en Dieu. Sur quel point exactement appuyer? Quelles sont les différentes étapes à suivre? Car il faut déjà lui faire accepter que c'est Allah Ta'ala qui mérite seul l'adoration. Que dire exactement d'Allah Ta'ala? Car très souvent les gens pensent qu'Allah Ta'ala c'est le Dieu des Arabes. Ça c'est vrai. Barakallahu fikoum de m'expliquer comment m'y prendre exactement. Jazakumullah khairan ya shaykhana wa barakallahu fikoum. Tfadal cheikh.
Fikoum barakallah, tout dépend de la personne à laquelle on veut faire da'wah. Les personnes ne sont pas les mêmes. Chaque personne elle a sa propre conception de la vie. C'est pour cela que si tu veux réussir dans ta da'wah avec telle ou telle personne, il faudrait que tu prennes le temps nécessaire pour comprendre quels sont, yani, les penchants de cette personne. Yani, où est la faute, si je puis dire. Yani, de quel côté, de quoi dois-je commencer? Si la personne est une athée, on commence par lui expliquer le tawhid de la seigneurie, que c'est pas possible, que les choses viennent d'elle, avec le soleil, pourquoi il s'est jamais trompé, et tout ceci. Non, c'est comme à peu près quand Ibrahim, alayhi salam, a eu le dialogue avec c'est connu le verset. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset celui-là. Ibrahim bon, vous n'avez pas entendu le début. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ata'ahu Allahu al-mulk. Et qala Ibrahim rabbi. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Qala nawhiyum mit. إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبوئت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Est-ce que vous voyez ce qui est affiché ou vous ne voyez pas? Baqara 200. D'accord. Allah Ta'ala a dit, n'as-tu pas vu, ya Muhammad, l'histoire de celui qui, parce qu'Allah Ta'ala l'a fait roi, il argumenta contre Ibrahim au sujet de son Seigneur. Alors Ibrahim a.s. lui dit, j'ai pour Seigneur celui qui donne vie et la mort. Moi aussi, dit l'autre, je donne la vie et la mort. Alors Ibrahim lui dit, puisque tu dis cela, alors sache que Allah Ta'ala fait venir le soleil du levant. Fais-le donc venir du couchant. Le mécréant resta alors confondu. Allah ne guide pas les gens injustes. Donc Ibrahim, regardez ici le dialogue avec quelqu'un qui ne croit pas du tout en Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Mieux même, pire, il a dit, c'est moi, yani, je peux faire ce que fait Allah Ta'ala que vous dites, votre Dieu. Car Ibrahim lui a dit que Allah avait la spécificité de donner la vie et de prendre, yani, d'ôter vie, c'est-à-dire donner la mort. L'autre, il lui a dit, moi aussi je donne la vie et la mort. Il a dit, je te donne un exemple. Allez, ramenez-moi maintenant deux personnes. Ils lui ont fait venir deux personnes de la prison, de sa prison. Il a dit, condamnez-les à mort, exécutez-les. Quand ils les ont pris pour aller les exécuter, il a dit, celui-là, l'un des deux, pour l'un des deux prisonniers, celui-là, laissez-le en vie et exécutez l'autre. Ensuite, il a dit à Ibrahim, tu vois que je donne la vie et la mort. Normalement, les deux allaient mourir. Ensuite, l'autre, je l'ai laissé en vie. Et l'autre, je lui ai donné la mort. La hawla wa la quwwata illa billah. Il a cru que comme ça, classe, il avait eu le dessus sur Ibrahim. Alors Ibrahim alayhi salam maintenant veut lui montrer que celui qui donne la vie et la mort, c'est celui qui régit l'univers. C'est celui qui régit l'univers. Donc prouve-moi toi, puisque tu dis que la mort, prouve-moi que tu régis l'univers. La preuve, mon Dieu, moi, fait venir chaque jour le soleil du levant. Alors si toi tu régis l'univers, fais-le venir maintenant ou bien demain du couchant. On va venir faire venir le soleil du couchant à la place du levant. Vraiment, tu es celui qui donne la vie à la mort et tu es un. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est resté confondu. Il n'a pas trouvé de réponse. Il n'a pas trouvé de réponse. Naam, Ibrahim alayhi salam, mouhidin. كذلك أتينا إبراهيم حكما وعلما. المهم تلك حجتنا أتينا إبراهيم، نعم تلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه. المهم ce que je voulais dire c'est que maintenant quand on discute avec une personne on voit si elle connaît déjà le même mécréante si elle connaît le tawhid de la seigneurie. Elle dit oui je sais que c'est qui fait tomber la pluie qui donne les enfants ceci cela donc celle-là sa faute, son défaut, c'est quoi? C'est l'unicité de la divinité. Elle n'adore pas Allah. Je lui dis donc, à quoi ça sert de croire en tout cela si ce Dieu que je reconnais, qui fait tomber la pluie, dont les enfants, etc., je l'adore pas. Donc, il mérite même pas d'être adoré. Donc, il nous a créé comme ça dans le vide, pour qu'on joue, on mange et on dort et pour qu'on assouvisse nos désirs, c'est tout. C'est pas possible. Et je lui donne comme ça quelques versets en ce sens que Allah Ta'ala n'a pas créé cela dans le vide. Dans un verset, regardez ce verset. Il a dit, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. C'est-à-dire, nous n'avons le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain. En vain, c'est-à-dire sans but. C'est ce que pensent ceux qui ont mécru. Comme ça pensent les kofars. Malheur à ceux qui ont mécru. Donc, nous n'avons pas créé de la terre et ce qui existe entre eux sans but. Sans but. Comme ça, parce que je n'ai rien à faire, j'ai créé les cieux et la terre. Non, il a créé les cieux et la terre pour que tu saches que c'est lui le créateur. Et par conséquent, pour que tu l'adores. Pour que tu l'adore. C'est pour ça qu'il a dit aussi dans un autre verset, il a dit, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. نعم. Il a dit, ce n'est pas par divertissement, hein, c'est parce que Dieu veut jouer que nous avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux. Non, ce n'est pas par divertissement. نعم. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, pour qu'il montre que c'est lui le créateur. Et aussi, année pour nous aussi. Et je disais aussi, tant qu'on dit à cette personne, on lui montre que, yani, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créé comme ça, yani, pour ne rien faire. C'est pour ça qu'il a dit dans un Coran, il a dit, dans le Coran Afwan, regardez ce verset, il me plaît beaucoup. Il a dit, et ceux qui mécroient, les mécréants, qu'est-ce qu'ils font? Jouissent et mangent comme les bestiaux. Et le feu sera leur lieu de séjour. Les kofars, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouissent, ils mangent du matin au soir, toutes sortes de manger, ceci, cela. Ils ne pensent qu'à préparer, cuisiner. Ensuite, jouissent, avant cela, jouissent. Jouissent des femmes, jouissent de l'alcool, de ceci, dansent, ceci, cela. Et finalement, ils savent pas que ce sont ressemblés aux bestiaux. les bestiaux, ça. Car celui qui a, je dis pas le croyant, mais je dis celui qui a seulement la raison, il dit c'est pas possible, soit créé comme ça juste pour manger et boire. Ça, c'est l'animal qui est créé pour ça. Donc la conclusion, c'est quoi la finalité? Le feu sera leur lieu de séjour, Aoudoubillah. Donc toi, si tu veux que tu sois pas des gens du feu, il faut pas que tu jouisses et tu manges comme mangent les bestiaux. Mais comme tu jouis et tu manges comme Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné. Naam, tfaddal inshallah ta'ala.
Question suivante. Qu'Allah vous préserve. Puis-je avoir le numéro du hadith, bismillah, ta'ala barakallahu fikoum, sur le singe? Tfadal cher.
Naam, si vous le voulez, ici je l'ai pas devant moi. Mais je peux vous le donner dans le prochain cours. Sauf si vous voulez maintenant que vous me donniez 5 minutes pour que je cherche. Comme vous voulez. Numéro 3849. Dans quel livre? Numéro 3849, dans quel livre? C'est un hadith authentique. Même Cheikh Al-Albani a parlé de lui. La preuve, une fois quand j'étais au Koweït, j'ai fait Salat Jumu'ah, la khutbah Jumu'ah. Et j'ai cité ce hadith, dont je me rappelle très bien que je ne vais pas monter au minbar pour dire un hadith qui n'est pas authentique, comme vous devez le savoir. Donc, il est où, 3849, dans Sahih al-Jami'? Est-ce qu'il est dans Sahih al-Jami', Ismail al-Jazairi? Je sais qu'il est dans Sahih al-Jami', mais est-ce que le numéro que tu as donné, c'est du Sahih al-Jami'? Sinon, je vais le chercher moi tout de suite. Afoun, quand je parlais de Sahih al-Jami', je parlais d'un autre hadith. Celui-là, je vous ai dit que Aslou fil Bukhari, mais il a été rapporté par Dar al-Qutni ou bien Bayhaqi, je me rappelle pas très bien. Non, mais Aslou fil Bukhari, l'histoire résumée se trouve dans le Bukhari. Tfadlal.
Question suivante. Question d'une sœur. Comment répondre de manière structurée et sage à des non-musulmans qui croient que l'univers est apparu par hasard et qui ne croient pas qu'il y a un Dieu qui commande cet univers, mais la nature, comme ils disent? Barakallahu fikoum. J'avais pas vu, cher.
Allez, cette question, justement, sa réponse c'est quoi? C'est le cours. Le cours qu'on vient de faire. Que les trois grandes preuves. La première, que tout fait doit avoir une cause. C'est pas possible qu'une chose vienne d'elle-même. Et la deuxième, il y a la perfection du régissement de cet univers. C'est pas possible que cet univers soit parfait à ce point. Que jamais le soleil ne se trompe. Et jamais, année, quand elle commence à tomber, pourquoi qu'elle reste pas, par exemple, une année à tomber? Pourquoi elle tombe seulement quelques jours? Juste ce dont ont besoin les gens. Ou bien juste pour châtier certains, en leur donnant des inondations et comme ça. Là, tout est, année, calculé, mashallah. Et la troisième, on l'avait cité quoi? Que, pourquoi, année, Allah Azzawajal a guidé toutes les créatures à ce qu'elles fassent leur fonction. Donc, celui qui veut convaincre quelqu'un sur ce point-là, ce point-ça, ce point-là, afwan, il doit bien, yani, relire ce qu'a dit Cheikh Fawzan, hafidhahoullah, dans les trois points qu'on a cités. Il doit bien s'armer, yani, de verser et de leur montrer, voilà ce que Allah Ta'ala nous a dit dans le Coran, ou alors même sans le Coran, de leur citer les preuves de la raison qu'a cité Cheikh Fawzan, hafidhahoullah. Une seconde pour que vous me donniez le temps de vous chercher le hadith du singe. Ah, j'ai pas compris. Maintenant, je voudrais poser une question. Muslim, tu as dit le hadith du singe, celui de la barque ou bien celui de la zina? Tfadlal. Muslim, est-ce que tu es là?
Non, afouen cher. Fawzi, min fadlik, demande à la personne qui t'a posé la question si c'est sur la barque ou la celle avec les singes, le groupe de singes. Allahu alam, je pense que c'est celui de la barque, car elle a dit le singe. Allahu alam. J'attends Fawzi.
Ouzi a dit maintenant sur la mouche. Il a dit ce n'est plus le singe, c'est la mouche. J'ai pas cité de hadith sur la mouche, Fawzi. Je n'ai cité aucun hadith sur la mouche, tfaddal.
Non, Fawzi, c'est pas la mouche. Non, c'était pas pour ça. Non, tu m'as envoyé la question en PV sur le hadith. Essaye de voir avec la personne qui t'a envoyé cette question. C'est Moussa Lafi. Demande à Moussa Lafi de quel hadith parle-t-il. Donc je vous lis la question suivante, cher. Tant qu'il vienne répondre. Donc, question d'un frère. Cher, je voudrais savoir dans le verset où Allah Ta'ala dit: Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, il ne saurait le reprendre. Qu'est-ce que cela signifie? De quoi la mouche pourrait-elle les dépouiller? Et aussi dans le même genre, j'ai une question qui me trouble depuis longtemps. Lorsque Allah Ta'ala dit: Certes, Allah ne se gêne point de citer en exemple n'importe quoi, un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Dans ce verset, Allah dit ensuite: Quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur. Quant aux infidèles, ils se demandent qu'a voulu dire Allah par un tel exemple. Verset 26, Sourate Baqara. Mais moi je sais que c'est la vérité, mais je n'ai pas compris l'exemple du moustique. Si vous pouvez m'éclaircir sur ces sujets, wallahi, ça fait très longtemps que ça me perturbe. Qu'Allah Azzawajal vous récompense de la meilleure des manières, ainsi que ceux qui vous aident pour la retransmission des douros. Tfadal Cheikh.
Bon, Tayeb, je me rappelle très bien de la deuxième question, parce qu'il y a deux questions. La deuxième, c'est sur le moustique. Donc la première, c'était quoi, Barakallahu fik, en deux mots, c'était quoi?
Non, mais j'étais en train de lire la réponse déjà sur le singe cher, c'est concernant la zina. Et la première, c'est concernant la mouche. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, il ne saurait le reprendre. Qu'est-ce que cela signifie? De quoi la mouche pourrait-elle les dépouiller? Et donc pour le singe, c'est la zina. Tfadha cher.
Pour la mouche, ce qu'elle dépouille, alhamdoulilah, ça a été cité aussi dans le cours, soit peut-être vous ne l'avez pas entendu, ou bien peut-être la personne n'était pas présente. Autrefois, les kofars, quand ils allaient adorer leur statue, etc., ou bien ils prenaient avec eux quelques aliments qu'ils posaient par exemple sur la statue, ou bien d'autres mettaient ce qu'on appelle dans le sens du musc, sur leur statue. Ensuite, si une mouche venait et prendrait un peu de l'aliment, un peu, des aliments qu'ils ont posés, une petite bouchée, par exemple, du pain, ou bien prenez le musc, comme ça, sur Allah Ta'ala leur lance des défis, s'ils peuvent, rattraper la mouche et lui enlever ce qu'elle a pris. C'est un défi. C'est-à-dire, Allah Ta'ala veut leur dire, non seulement vous ne pouvez pas créer la mouche, mais encore, même pas vous défendre si elle vous fait du tort. Vous avez compris? Mouche, tu voles quelque chose, tu peux pas la lui prendre. Comment se fait-il que tu prétendes que tu puisses créer une mouche? Allez, crée une mouche si tu peux. Je vais l'envoyer contre toi, elle va t'enlever quelque chose de ton sandwich, et elle va partir avec un petit bout, tu pourras jamais le reprendre. C'est un défi. Justement, Humaïcha, Barakallahu fik pour cet effort, Amallah. Ils cherchent hadith du singe de la barque, ils cherchent l'autre de la zina. El-Mouhim, quant au verset qui parlait du moustique, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Istahi, yedma ba'udatin fama fuqaha, amma alladhina ya'lamuna amanu fa'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arad, mathala. Dans ce verset, lorsque Allah parlait dans le Coran, eux, les kuffar, etc., ils mécroyaient. Naam. Disaient, comment se fait-il? Des fois, ils parlent ils parlent du moustique, des fois, de l'éléphant. Vous connaissez la sourate du fil, la sourate de l'araignée. Ils ont dit, c'est quoi ça? Ça, c'est ça le Coran? C'est ça la parole d'Allah? Allah Ta'ala leur a dit que Allah Ta'ala n'avait pas de honte à ce qu'il parle. Quoi? À ce qu'il parle du moustique est plus petit que le moustique. Naam. Il a dit qu'il n'avait pas honte de parler de cela. Car, celui qui a créé l'éléphant, ou bien la, c'est lui-même qui a créé le moustique. Et peut-être, peut-être, hein, pas pour Allah, pour nous. Difficile à concevoir sa création pour nous, hein, que un éléphant. Car c'est petit pour nous. Plus c'est petit, par exemple, c'est difficile. Ça devient de plus en plus difficile. Ça, Allah Ta'ala dit que je suis le même. Celui qui a créé l'éléphant, c'est lui qui a créé aussi le moustique. C'est pour ça que je n'ai pas honte de parler de yani, du moustique. Et il a dit de plus petit que le moustique. Pour prouver quoi? Pour vous prouver qu'il y a des insectes qui sont plus que le moustique et qu'on ne peut voir qu'avec le microscope. Subhanallah l'adhim. Alhamdulillah qu'Allah Ta'ala nous a donné une vue, yani, il a fait exprès que notre vue ne soit pas, yani, disons, à 500% ou là. Elle est seulement, par exemple, à 100%. Sinon, tu aurais vu autour de toi plein d'insectes. Plein d'insectes qui auraient quoi? Qui auraient gâché ta vie. Tu pourrais plus vivre. En face, à droite, à gauche, en haut, en bas. Il y a des choses, des milliers, des millions qui sont autour de nous et qu'on voit pas. Des virus, des microbes, tout ça on les voit pas à l'œil nu, alhamdoulillah. C'est une ni'ma d'Allah subhanahu azawajal. Naam. Donc, inshallah ta'ala, tu as compris que Allah ta'ala veut dire l'essentiel. Naam, c'est moi qui ai créé tout ça. Je n'ai pas honte de parler de ça. Tfadhal.
Question suivante. Je suis la sœur qui avait posé la question samedi dernier concernant les cadeaux d'anniversaire. Comme Cher a dit qu'il répondait au prochain coup, je voulais amener une précision. Lorsque j'ai parlé des membres de ma famille qui ne sont pas convertis, alors le fait de refuser les cadeaux n'agirait pas sur nos liens. C'était parce que j'avais vu une fatwa concernant les convertis. Elle disait qu'ils peuvent accepter les cadeaux de leur famille à Noël, etc., pour éviter de les éloigner, etc. Barakallahu fikoum, afin pour le dérangement. Tfadhal Cheikh.
Je dis, et la réponse est très simple et très concise. Si la sœur a vu une fatwa, alhamdoulillah, qui est mieux qu'elle? Donc, par conséquent, elle ne doit même pas poser la question à moi. Vous avez compris? Pourquoi? Parce que, subhanallah l'adhim, si tu as lu une fatwa de Cheikh Raji, il faut pas poser de question à quelqu'un qui est moindre, qui est tout juste un petit. Ça va te faire ensuite des problèmes. Peut-être que moi, que je réponds faux ou là, et je vais te dérouter. Alors que toi, mashallah, comme a dit le professeur Sam, il a yani, appuyé sur la sunna avec les Molières. Naam. Donc, c'est un conseil que je donne à mes fils et à mes filles. Quand vous rencontrez une fatwa d'un des grands savants, ne me posez ni à moi, ni à d'autres, yani, savants, yani, la même question. Pourquoi? Là, ça te suffit. Tu as la fatwa d'un savant. Un savant t'a dit prendre la khouta à la Noël pour ne pas faire de mal, etc. Alhamdoulilah, c'est une ni'ma que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée. Naam, alhamdoulilah. Tfadhal.
Question d'une sœur. Les savants ont dit que l'apprentissage du tawhid est obligatoire à tout musulman. Comment conseillez-vous cet apprentissage à la femme qui a des responsabilités dans son foyer et qui des fois ne trouve pas le temps, de plus qu'avec avec la fatigue, il y a un manque de concentration? Jazakumullah khayran. Tfadhal Cheikh.
C'est vrai, surtout pour celles qui sont mariées, qui ont beaucoup d'enfants, etc. Elles devraient craindre Allah subhanahu wa ta'ala autant qu'elles puissent. C'est-à-dire l'apprentissage, c'est pas seulement en ouvrant un livre et en lisant. Je peux apprendre par exemple en écoutant. Je mets par exemple avant de dormir, je mets par exemple avec le Kitman ou comment ça s'appelle dans mon oreille ou bien une cassette ou là et je suis en train d'écouter. Ou bien je vois un dars d'un quelqu'un, masha'Allah, à la télé, par exemple, si c'est quelqu'un de masha'Allah connu, je vois son cours ou bien j'entends, c'est toujours de l'apprentissage. Non, chacun, que chacun craigne Allah subhanahu wa ta'ala autant qu'il puisse. Et la sœur Maria, avec des enfants, voir comment se procurer une fois par jour, une fois par semaine, ou bien comment yani, prendre un peu de son temps yani, pour apprendre bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Fadlan. Parce que c'est difficile pour la femme mariée de donner ça, et c'est pour ça que la plupart de celles qui se marient et font des enfants, qu'elles délaissent l'apprentissage de la science. C'est pour cela que celles qui ne sont pas mariées doivent profiter, tant qu'elles sont célibataires, d'apprendre. Car après, va venir une grande entrave, une grande barrière va venir après le mariage, jusqu'à ce que les enfants grandissent. Et pour grandir, vous savez combien qu'il faut d'années, et la sœur va redevenir à zéro. C'est comme si elle n'avait jamais rien appris. C'est pour ça qu'elle doit se ressaisir. Elle doit pas se laisser les enfants, comme a dit Allah Ta'ala, que fitna. Allah Ta'ala dit vos enfants et vos biens, ce sont des fitna. Et Allah dit vous les croyants, attention à ce que vos enfants et vos biens ne fassent de vous que vous soyez distraits de dhikr Allah. Attention, il a dit. Donc la personne doit toujours être sur ses gardes et essayer de craindre Allah subhanahu wa ta'ala au maximum. Et au moins, si pendant la journée elle est très occupée, au moins qu'elle laisse devant elle, par exemple, sur le chevet, par exemple, de sa petite table de chevet, il y en a un livre, il y en a par exemple sur la Aqida ou quelque chose comme ça, que chaque fois avant de dormir, qu'elle lise, par exemple, pendant au moins une demi-heure. Ensuite, elle s'endort et comme ça.
Question suivante. Question d'une sœur. Cher, vous avez dit que tout ce qui a été créé a une vie et est soumis à sa volonté. J'aimerais savoir si, comme les humains, Allah Azzawajal a donné aux animaux un libre arbitre dans leurs gestes, déplacements, etc. Jazakumullah khairan. Cher.
Non, sauf que la différence c'est que deux choses. Les animaux awalan, yani, ne sont pas, comme on dit en arabe, ghayru mukallafin. Yom al-qiyamah, ils n'ont pas de compte à rendre. Non, ils n'ont pas de compte à rendre. Non, dans le sens où qu'ils vont être jetés en enfer à cause de ce qu'ils ont fait. Certes, s'ils ont fait du mal entre eux, Allah Ta'ala va les faire, disons, payer quand il dépassera, yani, comme nous ça nous arrive dans la passe, yani, ceux qui ont un problème les uns avec les autres vont se corriger là-bas. La même chose dans le hadith authentique que Allah subhanahu wa ta'ala va faire venir le mouton cornu qui a frappé le mouton qui n'avait pas de corne et va donc qui n'avait pas de corne yani, de prendre son droit. Donc ce n'est pas surtout pour donner, yani, le droit de l'animal qu'on a frappé, même si c'est voulu, c'est une hikma pour montrer que Allah Ta'ala c'est le plus juste. L'animal, il lui a rendu son droit, mais c'est surtout aussi, pour que tu saches, toi, que si l'animal, qui a pas de raison, na'am, subhanallah al-'adhim, yani, il doit aujourd'hui être questionné et rendre les droits. Qu'en est-il là, donc, demain, quand je vais rencontrer Allah Azzawajal, donc je dois avoir peur pour ne pas faire d'injustice aux gens. Et la deuxième chose, c'est que les animaux, spéciales pour qu'ils mangent, pour qu'ils fassent leurs besoins, naam, pour qu'ils se soignent, comme j'ai dit tout à l'heure avec le chien qui va chercher de l'herbe, pour s'accoupler, pour se défendre, et comme ça. Non, yani, il ne serait jamais arrivé, yani, à vivre sur cette terre, et encore moins fait et défouler les méfaits. Wallahu ta'ala alam. Tfadhal.
Question suivante, question d'une sœur. Puisse Allah vous récompenser grandement, vous faire miséricorde et vous pardonner, ainsi qu'aux croyants et croyantes. J'aimerais savoir si une femme travaille sans hijab, légiféré, donc à tête nue, qu'il y a mixité dans son travail et que son argent, elle en propose à une sœur qui, elle, porte le djilbab, qui est en difficulté, a-t-elle droit d'accepter cet argent? Ou bien cet argent est illicite? Toi, Dacher.
Cet argent pour cette sœur, Inch'Allah ta'ala, à qui est à 100%. Quoi? Le haram, c'est-à-dire que, elle, qu'est-ce qu'elle a fait exactement? Elle a pris de l'argent d'une autre personne, elle l'a pris d'une façon halal. Est-ce que cette sœur a volé l'autre sœur qui travaille sans hijab? Non. Est-ce qu'elle a escroqué en lui prenant son argent? Non. Elle lui a menti et a pris son argent? Non. Elle l'a pris d'une façon halal, ça? Donc elle, pour elle, c'est halal. Et pour avoir travaillé sans hijab, sans pour elle. Pas pour celle qu'on a donnée. Non. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait chez les juifs. Alors que Allah Ta'ala a dit en parlant des juifs, wa akhdihimu riba, wa qad nuhu anhu. Il a dit en parlant des juifs, Allah Ta'ala, et ils prennent, ils font l'usure, l'usure. Alors, donc c'est interdit de prendre l'usure, pour les juifs aussi. Et le prophète a mangé chez eux. Donc c'est haram pour celui qui a fait l'usure, pas pour celui qui a mangé chez lui. Donc, elle peut prendre cet argent, bi'idhnillahi ta'ala, et c'est la fatwa la très très connue de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. Tfadl. Voilà le hadith, inshallah ta'ala. Amr Maymoun, ça, c'est lui, rapport. Au cours de la période pré-islamique, avant l'islam, j'ai vu une guenon entourée, lapidée par un certain nombre de singes à cause d'un adultère. Et allez, je l'ai lapidé avec eux. Bukhari 188. Mais en détail, Bukhari, je sais pas citer les détails, comment qu'il est venu la réveiller, etc. Ça, c'est dans ou bien Bayhari. J'ai oublié, mais surtout, je penche vers Dara'utni, Wallahu ta'ala alam. Tfadl.
Non, cher, ce qui est bizarre, c'est que chez nous, vous avez la main levée. Alors, même, c'est peut-être la connexion qui fait ça. Question suivante, question d'un frère. Qu'Allah vous récompense, vous et les admins, pour vos actions. J'aimerais que vous réexpliquiez la salat du Fajr de crainte de ne pas avoir bien compris. Les deux rak'at, Fajr surérogatoire, doivent être faites 20 minutes après le adhan. Après, on doit patienter au moins 5 minutes en faisant zikr, même lorsqu'on est seul chez soi avant de faire niqama et après on fait salat as-subh. S'il y a plus de 20 minutes qui passent, l'adhan, on fait directement niqama as-subh et on rattrape le fajr après shorok. Barakallahu fikoum pour tout ce que vous nous apportez. Tfadha cher.
J'ai dit, quand quelqu'un, yani, entend, chez nous, l'Algérie, au moins, il attend 20 minutes. Ensuite, il fait salat al-fajr. Ensuite, il attend un peu, pas plus 5 minutes. Il fait salat al-subh. Il fait salat al-subh. Si maintenant, il s'est réveillé 20 minutes en retard, il peut toujours commencer par salat al-fajr. Pourquoi? Car salat al-subh se termine quand le soleil se lève. Et là, il reste beaucoup pour que le soleil se lève. Donc, s'il reste beaucoup, je commence vite, je fais salat al-fajr, ensuite je fais salat al-subh. Vous avez compris? Maintenant, si c'est vraiment, il nous reste plus de temps, yani, salat al-fajr, je peux la faire quand je me réveille, quand le soleil s'est vraiment levé, bi-idhnillahi ta'ala. Tfadla.
Madame chère, et comme je l'ai écrit, avant que vous soyez déconnecté, il restait 17 minutes. Question suivante. Pour les enfants nés d'une relation adultérine, on sait que le père perd sa tutelle, mais qu'en est-il de la famille du père, comme l'oncle, etc. Jazakumullah khairan. Tfadal cher.
C'est la même chose. Naam. Ida saqata al-asl, saqata al-far'a. Et comme on dit, la yutasawwaru wujud far'a duna asl. Si Yani la base tombe, il faudrait que tout ce qui est au-dessous de la base tombe avec elle. Vous avez compris? Donc maintenant, il n'y a plus d'oncle ni rien. Puisque le père est tombé. Non, تفضل.
Non, mais cher, concernant cette question, ça veut dire que par exemple, s'il y a un garçon qui est né donc d'une relation adultère et qu'ensuite les parents se marient, donc on sait que l'homme va devenir le beau-père du fils, donc ça veut dire que si l'homme a une sœur, le fils de cet homme, ce n'est pas un mahram pour sa sœur, si j'ai bien compris votre réponse. Fadal cher. Même s'il se marie, qu'il devient beau-père.
Afouane, j'ai pas bien compris. Yani, c'est pas ta question. Yani, j'ai pas bien compris l'exemple que tu as donné. Tfadlal.
Non, mais je vais prendre mon exemple, cher. Ce sera simple. Admettons que j'ai un enfant, donc d'une relation adultère, qu'Allah m'en préserve. Cet enfant, donc je l'ai dans le haram, et ensuite je me marie avec la mère de cet enfant. Donc je deviens le beau-père de cet enfant. Est-ce que ma sœur, donc par rapport à ce fils, lorsqu'il sera pubère, est-ce qu'il devient un mahram pour ma sœur ou non? Et si j'ai bien compris la réponse, c'est qu'il n'est pas mahram pour ma sœur. Et donc elle doit se couvrir devant lui, Allahu a'lam. Tadachir.
Je dis que tu as bien répondu. Tu as bien répondu, car le beau-père, c'est un mahram pour la fille de qui? La fille de son épouse. Pour la fille de son épouse, ou bien pour la fille qu'il a eue dans le haram, naam, mais pas son frère. Elle n'est pas pour son frère. Ou alors, le fils adultérin n'est pas pour la mahram pour la sœur, et elle est du père. تفضل.
Non, vraiment, les conséquences sont énormes derrière. Qu'Allah nous en préserve. Question suivante, question d'un frère. Ahsanallahu alaykoum, cher. Quelle est la part de vérité concernant les découvertes faites par les scientifiques concernant les fossiles de dinosaures qu'ils trouvent régulièrement dans les zones désertiques? Ils disent que ces animaux ont vécu sur Terre avant l'être humain il y a des millions d'années. Est-ce qu'on doit croire à cela? Ou est-ce que ceci entre en conflit avec ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et sinon, quelle serait la sagesse de la création des dinosaures par Allah? Il en est de même des soi-disant hommes préhistoriques, mais ceci, j'y crois pas, car certes, nous descendons d'Adam alayhi salam. Barakallahu fikum wa hayyakum Allah.
Mousseline, est-ce que tu as dit que d'après elle, ou enfin, d'après ces gens-là, que yani, les animaux ont été créés avant l'être humain? Est-ce que tu as dit comme ça? Non. Celui qui dit une parole comme ça, non, il est ou bien ignorant, bien sûr, il connaît pas le dîn, il peut devenir kafir. Non. Si on lui montre, il dit non, j'accepte pas. Parce que vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre. Est-ce qu'il y a entre eux en combien de jours? En 6 jours. Et que la dernière créature, c'était qui? Hein? C'était Adam alayhi salam. Tayyib. Donc, avant, là, s'il veut dire par que ces choses-là ont été créées avant Adam, s'il veut dire que avant Adam, dans ces 6 jours-là, le dernier jour, c'était Adam. Le troisième jour ou le quatrième, je ne sais pas, c'est les animaux. S'il veut dire c'est comme ça, d'accord. Mais s'il veut dire créer avant cela, avant les 6 jours, yani que Allah Ta'ala a créé ces animaux-là, vraiment ça, c'est une doctrine, yani, vraiment dangereuse. Vraiment dangereuse, il faudrait qu'on lui montre et qu'il apprenne. Bi'idhnillahi Ta'ala. Naam, tfadlal.
Question suivante, question d'une sœur. Est-ce qu'on peut étudier la science du tajwid ou la langue arabe avec une sœur qui n'est pas dans l'Ofécom? Tfadha cher.
J'ai pas entendu la question. Tamala, est-ce que tu es là? Tamala, est-ce que tu es là? Alhamdulillah. Envoie-moi, tu m'avais dit qu'il y avait quelque chose à envoyer. Envoie-moi ça, je t'ouvre mon PV. Tfadl al-Moussim, répète la question.
Non, je vais répéter, cher. Question d'une sœur. Pouvons-nous étudier la science du tajwid ou la langue arabe avec une sœur qui n'est pas dans le minhaj salafi? Barakallahu fikoum. Tfadal, cher.
Les savants disent que yani, c'est vraiment dangereux. Comme dit Cheikh Ibn Outaymin, au moins pour trois raisons. La première, la personne peut t'égarer en te citant des choses, naam, et tu n'as pas de réponse. Même en arabe, même si elle t'apprend le Coran, on dit voilà le sens du verset. Ou alors en parlant de l'arabe, elle te donne aussi un verset pour t'expliquer l'arabe. Et elle l'explique comme elle veut d'après le sa fausse aqida. Et la deuxième erreur, c'est que tu fais croire à la personne qu'elle est masha'Allah. Parce qu'elle dit, regarde, les salafis viennent chez moi apprendre. Et la troisième erreur, tu fais tremper les autres gens. Non, mais les autres gens disent, oh, celui-là, il est salafi, et il assiste chez un ikhwan. Donc sûrement que cet ikhwan est masha'Allah. Sinon, les salafis n'auraient pas assisté chez lui. Il dit donc, celui-là, surtout moi, je suis nouveau, donc ceux-là, ils connaissent mieux que moi. Donc moi aussi, je vais commencer à assister chez celui-là. Et comme ça, tu trompes les gens. Donc si vraiment, yani, quelqu'un devait assister chez quelqu'un qui n'est pas salafi, ce serait vraiment, yani, dans le... Vous m'entendez pas? Je suis bien va comme ça. Sinon, il vaut mieux éviter, inshallah ta'ala. Tfadlal.
Question suivante, question d'une sœur. Arsanallahu alaykoum. Ma question est la suivante. Pouvons-nous prêter une somme d'argent à une personne sans la marquer par écrit, avec deux témoins, et aussi le verset 282 concerne seulement les transactions commerciales ou la dette aussi? Qu'Allah augmente notre science et vous récompense par le Firdaous pour le travail que vous faites, cher, ainsi que les admins et tous les participants. Amin. Tfadal, cher.
Les savants ont dit quand quelqu'un emprunte de l'argent, c'est mieux de l'écrire. Ils ont dit c'est recommandé. Pourquoi? Car tu risques d'oublier la somme, ou bien tu risques de mourir si tu n'as pas payé. Mais maintenant, quand il y a la feuille ou je ne sais pas quoi, tes parents vont voir, ils vont payer à ta place, ou bien l'autre il va mourir, et comme ça. Ils ont dit celui qui écrit c'est mieux, il a des hasanat, car c'est recommandé bi'idhnillahi ta'ala. À moins que ça ne soit pas une somme importante. Comme 20 euros, 30 euros, hein, des choses qui sont pas importantes comme ça. Là, mais une somme importante, là, il faudrait, je dis pas il faudrait, mais, yani, l'islam, yani, conseille fortement d'écrire bi'idhnillahi ta'ala. Et encore mieux, peut-être chez le notaire. Tfadlal.
Question suivante, question d'une sœur. Arsanallahu alaykoum. Qu'Allah Azzawajal vous préserve ainsi que votre famille. Nous avons les moyens financiers pour faire la hijra. Alhamdulillah, mais mon mari ne souhaite pas quitter les privilèges qu'il a en France. Je sens que par moments il veut partir, puis il dit non. Notre réserve d'argent s'amoindrit. Et j'ai peur de ne plus pouvoir partir et finir ma vie dans un pays de kofre. Quel est le comportement adopté face à mon époux? Je précise, Barakallahu fikoum, qu'Allah Azzawajal vous récompense pour le temps que vous nous accordez, de même que les administrateurs de la room. Tfadal, cher.
J'ai bien entendu la question, sauf quand tu es arrivé à la phrase, tu as dit je précise, ensuite je n'ai plus entendu. Qu'est-ce que tu as précisé? Tfadlal.
Non, cher, c'est parce qu'il manque un morceau dans la question. C'est pour ça que je n'ai rien dit après. Il n'y avait pas le reste. Donc je demande à la sœur, Inch'Allah, s'il y a un complément sur la question, de me le poster. Pas de cher.
Naam, qu'elle patiente avec lui en lui faisant des rappels. En lui rappelant que Celui qui a les moyens de quitter, il ne quitte pas. Il n'a pas là-bas une excuse valable, non, que celui-là. Il y a même un hadith qui dit que yani, ses œuvres sont suspendues jusqu'à ce qu'il quitte le pays des kofars. Car en étant avec eux et entre eux, tu es obligé, Naam, que plusieurs choses de ta religion que tu les fasses pas. Plusieurs choses. Si vous avez remarqué ces temps-ci, par exemple, comment ça se passe en France. Comment qu'il y a maintenant une islamophobie, comme pas deux. Comment qu'il y a des agressions. Et entre parenthèses, bien sûr, c'est ce qui prouve que vraiment, ça marche, question islam. Vous avez compris? Pourquoi il y a ces agressions, etc. Parce qu'ils ont vu que ça marchait beaucoup. Et que la dawa marche vraiment. C'est pour ça que maintenant, ils veulent bloquer, ils veulent arrêter la chose. Al-Muhim. Inch'Allah ta'ala, ma réponse, qu'elle fasse des rappels, etc. Naam. Jusqu'à ce que, Inch'Allah ta'ala, ils prennent la décision, bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala. Fadal. Ensuite, elle lui dit que, Naam, de toute façon, tu vas pas vivre tout seul, on sera à deux. Et moi, je supporte. Elle lui dit, moi, ça ne fait rien. Allah Ta'ala ne nous laissera pas. Naam. Allah Ta'ala ne nous laissera pas. Comme a dit Hajar à Ibrahim, alayhi salam. Naam, puisqu'on a fait ça pour Allah, et on va faire ça pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Fadal.
Question suivante, question d'une sœur. Cher, je dis souvent à ma fille, lorsqu'elle fait quelque chose de bien, apprentissage du Coran ou autre, qu'Allah est fier d'elle. On m'a fait la remarque que ça ne se disait peut-être pas. Pouvez-vous m'éclairer une fois de l'écom? Fada cher.
Non, on peut pas dire une phrase pareille parce que, il n'y a pas cette phrase dans la sunna. Non, mon fier, on peut pas dire, on peut dire que, Allah Ta'ala est content de toi. Et encore, en disant est content de toi, il faut avoir lu sur la table préservée. Donc, j'ai lu sur la table préservée, la tablette préservée, que Allah Ta'ala était content d'elle. Car peut-être qu'il y a un empêchement qui empêche qu'il soit ravi d'elle. Donc je dis, pour corriger, je dis, à ma fille, je lui dis, Masha'Allah, Allah Ta'ala aime ceux qui font comme ça. Masha'Allah, par exemple, si elle a donné une aumône, je lui dis, Masha'Allah, Allah Ta'ala aime celles qui font l'aumône. Si elle a prié à l'heure, Masha'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala aime celles qui prient à l'heure. Et comme ça. Mais je ne vais pas lui dire qu'Allah Ta'ala, ta et toi. Parce que je n'ai pas lu sur la tablette préservée. Est-ce que vraiment il l'a aimé et qu'il n'y avait pas, voilà, qu'il n'y avait pas un empêchement qui a empêché. Vous avez compris? Moi, je vois l'apparence, mais je sais pas ce qu'il y a dans les cœurs. Peut-être que, je parle pas de la fille de cette sœur, je parle en général. Peut-être qu'une personne qui prie toute la nuit, si je dis d'elle que Allah Ta'ala est ravi de toi, peut-être que cette personne prie, c'est juste pour se faire connaître, ou là, c'est pas pour Allah, vous avez compris, je sais pas ce qu'elle a dans la tête, donc moi, je sais pas ce qu'il y a dans les corps. Fier de toi, dans le sens, je suis très heureuse que, non, c'est, non, mais quand il dit fier de toi, moi, je comprends le sens qu'il veut dire, mais le mot fier, on peut pas dire d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est fière de X, et de Y, vous avez compris, c'est ce que je veux dire. Sinon, je comprends moi le sens de ce qu'elle veut dire. Veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est ravi d'elle et ceci, cela. Mais moi je parle du mot. Est-ce qu'on peut dire que Allah est fier de moi, Allah est fier de toi et comme ça. Il vaut mieux corriger, inshallah ta'ala, la phrase, Allah ta'ala alam, ta'am Allah. Puisque tu peux pas m'envoyer le dossier dont tu parles, garde-le, inshallah ta'ala, pour le prochain cours, inshallah ta'ala. Car à la fin, quand je tarde comme ça, j'ai toujours des problèmes. Avec ce partoc, Naam, tfadlal.
Non, cher, donc le compteur est terminé. Par rapport à la question tout à l'heure qui vous a été posée sur l'enfant issu de la zina, une sœur dit, peux-tu demander au cher que j'ai pas bien compris la relation entre enfant beau-père? En fait, voilà, j'ai mon frère, il a eu un enfant hors mariage, mais depuis il s'est marié avec la mère. Est-ce que moi je dois porter le voile devant mon neveu? Barakallahu fikoum. Donc la réponse est oui, et je vous laisse clarifier la chose, cher. Toi, cher.
D'abord, Wasbak, Muslim. Toi, tu as dit la réponse est oui. Donc, je n'ai pas compris pourquoi tu as dit la réponse est oui. Tfadla.
Non, mais en fait, la question c'est de savoir si elle doit porter le voile. Le voile devant l'enfant Zina de son frère, qui est devenu le beau-frère de ce fils. Et moi j'ai répondu Naam, elle doit le porter. Et pas de bise, etc. Alors, mais je vous laisse clarifier, c'est vous le cher, c'est pas moi. Toi, le cher.
Non, mais j'ai répondu tout à l'heure à une question pareille. Quand quelqu'un fait la zina avec une femme, aoudoubillah, il a un enfant avec elle. Supposons que ça soit une fille. Non. Bon. Pour lui, ce n'est pas son père du tout. Disons, c'est seulement le père biologique. Inch'Allah ta'ala, c'est pas son père. Sauf dans un cas que j'ai pas cité comme ça, que j'aime pas citer, où yani, l'islam fait une solution ou deux pour prendre l'enfant, etc. Ça demande une fatwa yani, personnelle, comme on dit. El Mouhim. Mais la fatwa générale, c'est que c'est seulement l'enfant de la mère, pas du père. C'est pas son père, c'est un père biologique. Il l'a eu avec son eau à lui, de l'eau du père dans l'ovule ou l'ovaire de la femme, je ne sais pas. Donc ça a donné un enfant, alhamdoulillah. Donc il y a un souci, mais ce n'est pas son père religieusement. Ce n'est pas son père religieusement. Maintenant, si jamais cet homme-là, le père biologique, va se marier avec la femme avec laquelle il a fait zina, a pris tauba, etc., la fille qu'il a eue de cette femme, pour elle, il devient son beau-père. Il devient son beau-père. Donc, il est le beau-père de cette fille. Seulement lui, c'est le beau-père. Mais son frère lui, cette fille-là doit se voiler devant son frère à lui. Parce que son frère à lui, c'est qui? C'est le frère de son beau-père par rapport à la fille. Qu'est-ce qu'elle dit en parlant de cet homme? Elle dit, celui-là, c'est le frère de mon beau-père. Elle ne veut pas dire celui-là, c'est mon oncle. Car c'est pas son père. C'est son père biologique. Vous avez compris. Donc, elle doit quoi? Elle doit se voiler devant lui et faire la bise. Afon, et ne pas faire la bise. Non. Les désastres de la zina. Une sœur demande à comprendre sur le fait de marquer d'être marquée. Tfadl. Maalich, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle complète? Pamela, n'oublie pas de me cacher ce que tu as en PV pour le prochain cours, Inch'Allah. Mousseline, est-ce que tu es là? Non, Muslim, j'ai pas compris sa question. Qu'est-ce qu'elle veut dire pour transaction et dette? J'ai pas compris. Fadal, pour les dettes, c'est clair. Qu'est-ce que ça veut dire pour transaction? Transaction, je sais, c'est quand on achète une chose ou là. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire par là?
Non, mais elle demande en fait si le verset de Sourate al-Baqara, verset 282, est-ce qu'il concerne seulement les transactions commerciales ou est-ce qu'il concerne les dettes également? Non,
Justement, le verset est venu spécialement pour les dettes. Les dettes. Quand je demande à quelqu'un de me prêter de l'argent. Ou bien je prête à quelqu'un de l'argent. Donc, je dois écrire ça. C'est-à-dire, c'est recommandé. Je dis pas que tu as des péchés, mais je dis que c'est recommandé. Qu'est-ce qu'elle veut dire par transaction? Je n'ai pas compris. Si je donne à quelqu'un une voiture, par exemple. Et je lui dis, par exemple, je te la donne maintenant, tu me payes dans une année. Ça aussi, c'est de l'argent, la voiture, c'est de l'argent. La voiture, quand je te la donne, pour me payer après. La voiture, c'est, je ne sais pas, c'est, voilà, comme une mégane. La voiture, c'est comme si je t'ai donné 100 millions et je t'ai dit, dans les mois après. On doit écrire cela aussi. Je ne sais pas si c'est compris, Allahu ta'ala. Muslim, c'est terminé.
نعم شيخ جزاكم الله خيرا.
فيكم بارك الله. On va se rencontrer mercredi, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.